7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, mercredi 27 février aujourd'hui, Laurent Cabrol nous parle du beau temps. Mais attention, alerte aux particules fines. Face au pic de pollution à Paris et Lille, les véhicules les plus polluants sont interdits à la circulation ce matin. Et attention, les autorités promettent des contrôles drastiques. Toutes les informations dès 7h avec Hélène Zélani dans le journal. Faut-il réduire les indemnités chômage des plus hauts salaires ? Le gouvernement y songe sérieusement, peut-être un signal adressé aux gilets jaunes. Et l'idée ne manque pas d'agiter des débats. L'analyse dans nos éditions avec le service économie d'Europe 1. Et la réaction 8h15 du ministre des Actions et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. À ne pas manquer également à 7h30 cet appel désespéré. Une grand-mère qui s'adresse à Emmanuel Macron pour récupérer ses 3 petits-enfants, 3 orphelins de 1 à 5 ans, retenus dans un camp de réfugiés en Syrie. 7h45, je reçois celle, on l'espère, qui conduira l'équipe de France à la victoire. Lors de la Coupe du Monde de foot féminin, ça commence dans pile 100 jours et ça se passera en France. La capitaine des Bleus, Amandine Henry, sera mon invitée. Voilà pour le programme. On est ensemble, on est tranquille. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous partez travailler, peut-être que vous êtes déjà au boulot. Bon réveil à tous, on vous accompagne jusqu'à 9h. Vous écoutez Europe 1, vous avez raison.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée. Il est 7h. 7h, 9h, votre matinale info avec Nico Saliagas.
La plus belle, Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le bras de fer entre la France et la Hollande autour du groupe Air France KLM. Le gouvernement néerlandais vient de prendre plus de 12% des actions sans même prévenir Paris. Décryptage dans un instant avec Axel de Tarlé. Un air irrespirable, notamment à Paris et Lille où les véhicules les plus polluants doivent rester au garage. Épisode de pollution aux particules fines. Et puis coup de projecteur sur le foot féminin à 100 jours du mondial. Les filles sont de plus en plus nombreuses à taper dans le ballon et ce ne sont pas les plus mauvaises.
Europe 1.
C'est donc un coup de force des Pays-Bas qui ne supportent plus la tutelle française sur le groupe Air France KLM. On l'a appris hier soir, le gouvernement néerlandais a décidé de monter en douce dans le capital et de prendre une participation de 12,68%, soit 680 millions d'euros, Axel de Tarlé.
Oui, Air France KLM, c'est l'autre alliance qui va mal. Tout le monde sait que Renault-Nissan va mal. Bah, Air France KLM, ça va pas fort non plus. Et c'est la même histoire que Renault-Nissan. C'est-à-dire que les Hollandais de KLM ne supportent plus ce qu'ils considèrent être l'arrogance des Français. Des Français qui veulent tout diriger alors qu'ils devraient plutôt se faire discret. Et c'est vrai que si vous regardez le groupe, l'alliance Air France KLM, les Hollandais font les 3/4 des bénéfices alors qu'ils sont bien plus petits qu'Air France. Alors là, ce qui a fait déborder le vase côté Hollandais, c'est la volonté affirmé des Français de débarquer le patron hollandais de KLM à Amsterdam et de diriger le groupe entièrement depuis Paris. Donc ça a fait un tollé aux Pays-Bas, même le gouvernement hollandais s'en est mêlé. Et donc là, on a le retour de bâton pour se protéger d'un nouveau coup de force des Français. Le gouvernement néerlandais vient subrepticement de monter au capital de KLM. Il a pris 12,7% des parts sans même avertir le gouvernement français. Vous voyez l'ambiance dans cette alliance. En fait, comme pour Renault-Nissan, on voit bien là la limite de ces alliances binationales où il n'y a pas de mariage en bonne et due forme. On voit bien que les susceptibilités nationales ne sont pas loin et au moindre problème, hop, on sort son drapeau pour dire stop.
Vive l'Europe.
Axel de Tarlé, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, déplore que cette prise de participation se soit faite sans informer le conseil d'administration ni le gouvernement français. Il est essentiel, dit-il, qu'Air France KLM soit gérée dans l'esprit de son intérêt social sans interférence étatique nationale. L'avenir d'Ascoval à nouveau devant la justice. Le tribunal de Strasbourg doit valider ce matin l'annulation de la reprise de l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord, puisque l'État a officiellement écarté Altifort qui n'avait pas les fonds suffisants. Le tribunal pourrait mettre en place un calendrier pour permettre aux nouveaux candidats à la reprise de se manifester. Et puis le gouvernement veut revoir les règles d'indemnisation du chômage, réforme au printemps. En ligne de mire, l'indemnisation des cadres, le plafond de 7700 euros bruts par mois pourrait être revu à la baisse.
Après plusieurs jours de pollution, les autorités passent à la vitesse supérieure à Paris, mais aussi à Lille.
Oui, interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants, vignette critères 4, 5 ou non classés. Ça concerne donc Paris ainsi que le périmètre délimité par l'A86, mais aussi Lille et sa métropole. Les contrevenants risquent 68 euros d'amende. Écoutez le préfet du Nord, Michel Lalande.
C'est la première fois que les automobilistes vont devoir se servir de la vignette critère et pourront circuler les véhicules avec la vignette 0, 1, 2 et 3. Et pourront circuler également tous les véhicules qui pratiquent le covoiturage sans distinction de vignette. C'est le niveau de pollution qui m'oblige dans ce contexte à devoir mettre en place la circulation différenciée. L'autre volet, c'est le volet limitation de vitesse sur l'ensemble du réseau routier avec des contrôles radars qui seront nombreux et sévères, je veux le dire ici, nombreux et sévères, pour amener les uns et les autres à s'engager dans une démarche citoyenne, à savoir limiter son empreinte dans la pollution du Nord et du Pas-de-Calais.
Le préfet du Nord au micro européen de Lionel Gougelot.
Et à 8h, on sera place d'Italie à Paris sur un point de contrôle des automobilistes, histoire de voir ce qui se passe.
Europe 1, il est 8h04.
Il faudra encore plusieurs jours pour venir totalement à bout de l'incendie de Calenzana en Haute-Corse.
1300 hectares partis en fumée dans ce village de 2300 habitants, porte d'entrée du célèbre GR20. Les dégâts matériels sont considérables, tout particulièrement pour un jeune éleveur de chèvres qui venait de s'installer l'an dernier. Heureusement, un mouvement de solidarité s'est créé autour de lui. Justin Morin l'a rencontré à Calenzana pour Europe 1.
Noël Licci a 23 ans, un enfant du village a vu les trois quarts de ses pâturages partir en fumée en quelques heures. Seule la bergerie et ses bêtes ont pu être sauvées avec l'aide des pompiers.
Ça fait un an qu'on travaille, on s'est dit au mois d'août ça peut brûler, donc on a fait un travail de fou en fait, nettoyer les arbres pour que ça brûle. Au final, en plein mois de février, où c'est improbable, il y a tout qui brûle et c'est beaucoup de choses qui font mal au cœur.
Mais rapidement le sourire revient.
C'est un peu dur mais ça va, je suis pas seul du tout. Heureusement, les amis, la famille, et j'ai eu pas mal de dons aussi, déjà des éleveurs, d'agriculteurs, d'amis, tout ça. Donc franchement, voilà, c'est bien.
Des ballots de foin, des possibles aides aussi pour reconstruire les canalisations. Le maire Pierre Guidoni en fait presque une affaire personnelle.
Ce jeune homme, une famille honorablement connue à Calenzana, où ils ont travaillé toute une vie, où toutes les économies les ont balancées pour pouvoir installer leur fils unique dans cette exploitation. Donc j'espère qu'il y aura une solidarité qui ira au-delà de Calenzana pour qu'il puisse poursuivre son activité.
Les trois prochains mois seront sans doute les plus difficiles. Après, les chèvres partiront en transhumance. D'ici là, le jeune éleveur pourra compter sur l'entraide. À Calenzana, Justin Morin, Europe 1.
Il se dit heureux et soulagé et remercie son avocate de s'être battu jusqu'au bout. Alexandre Benalla a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier soir, ainsi que son ami Vincent Crase. Ils étaient en prison depuis une semaine pour ne pas avoir respecté leur contrôle judiciaire.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zellani. En Grande-Bretagne, on pourrait bien se diriger vers un report du Brexit. Incertitude de plus en plus dure à supporter pour les Britanniques qui vivent en France notamment. On vous dit tout dans quelques instants sur Europe 1. Bon réveil.
Il est 7h06. Il est 7h07 sur Europe 1, le 7h09, c'est avec Nikos Aliagas.
Et Hélène Zellani pour le journal de 7h, ce sont les députés britanniques qui prendront la décision. Le Brexit pourrait bien être reporté.
Oui, pour éviter une sortie de l'Union européenne sans accord le 29 mars. Un suspense infernal pour les Anglais qui vivent en France. Ils sont 13 000 par exemple en Bretagne et de plus en plus nombreux à demander la nationalité française pour être sûr de pouvoir rester. Reportage de Pierre-Baptiste Vanzini à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan.
Cela fait plus de 12 ans que Sean vit en France sans carte de séjour. Même sa voiture a gardé son volant à droite. La question ne se posait pas. Mais aujourd'hui, elle est face à un mur à la préfecture du Morbihan où elle tente de se faire enregistrer officiellement. La réponse est toujours la même. Attendre.
Si tu passes pour demander la carte de séjour maintenant, il dit non, reviens à la fin de mars. On voit qu'est-ce que se passe. Parce qu'en France, personne ne sait non plus. C'est complètement fou! Complètement fou!
Jane, elle, n'a même pas réussi à obtenir un rendez-vous à la préfecture. En attendant, elle fait ce qu'elle peut pour peaufiner son dossier et se présenter à la France sous son meilleur jour. C'est pour cela qu'elle va officiellement prendre la tête des gîtes qu'elle a repris avec son compagnon français il y a 2 ans.
Pour obtenir la carte de séjour, je crois que ça me donne un peu plus de sécurité. Je sais pas.
Matt, lui, a appris presque par hasard par son employeur qu'il risquait de perdre son permis de conduire en France.
C'est vraiment nul, hein. Et c'est comme on a pris un fusil pour nous protéger et on a tiré un balle dans chaque pied. C'est incompréhensible.
Une chose est sûre, tous veulent rester et continuer leur vie en France. Comment ? Personne ne le sait. Rochefort-en-Terre, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.
Quand Donald rencontre Kim, Donald Trump, qui retrouve ce soir au Vietnam celui qu'il appelle son ami, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Deuxième sommet entre les deux hommes. Sur Twitter, le président américain évoque un avenir génial pour la Corée du Nord si elle accepte enfin de renoncer à son arsenal nucléaire. On connaît désormais le futur président du jury du Festival de Cannes. Ce sera le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, auteur de 21 grammes, Babel ou Birdman.
Football, ça roule pour le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France.
3-0 hier soir face à 10 Dijon. Ce soir, Lyon reçoit Caen, mais sans son capitaine Nabil Fekir. Le foot, ce n'est vraiment plus une histoire d'hommes, que ce soit dans les tribunes ou sur les terrains. Le mondial féminin s'ouvre en France dans 100 jours. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à chausser les crampons. 170 000 licenciés, chiffre en hausse de 15%. Marguerite Lefebvre est allée assister au stage de jeunes footballeuses à l'ACBB à Boulogne, en banlieue parisienne.
Sarah vient de fêter ses 12 ans, dont 6 crampons au pied. 3 fois par semaine et pendant les vacances scolaires, elle s'entraîne, souvent avec des garçons.
Au début, c'était bizarre. Ils se sont dit, ouais, c'est ça, elle est nulle, tout ça. Et quand j'ai joué, je les ai tous dégommés. Ils faisaient moins les malins.
Sors pas de ta zone !
Fille contre garçon, aujourd'hui, c'est Clovis et ses copains qui ont terminé le match à bout de souffle.
Ça fait quoi le score tout à l'heure contre les filles ?
6-3.
Pour qui ?
Pour les filles. Elle joue très bien, ouais.
Très bien, et même de mieux en mieux, portée par une équipe de France féminine qui réussit. C'est ce que constate Frédéric Roubaud, le responsable de la formation féminine à l'Athletic Club de Boulogne.
Ça les motive et ça leur donne aussi une vision de ce que peut être le football d'un très haut niveau. Il n'y a pas de distinction entre le professionnalisme garçon et fille. On va dans ce sens, c'est-à-dire qu'on essaye de leur montrer la bonne voie pour qu'elles deviennent un jour des grandes championnes aussi.
Et rien de tel pour leur montrer la voie que de les emmener voir leurs idoles. Le club a déjà acheté 100 places pour permettre à ces jeunes joueuses d'assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde France-Corée du Sud au Parc des Princes.
Marguerite Lefebvre, membre de la brillante équipe de foot féminin d'Europe 1 avec Anissa, bien sûr.
Absolument.
Et
merci,
à 7h45, je recevrai une autre éminente footballeuse. Elle est malheureusement dans l'équipe d'Europe 1. C'est Amandine Henry.
malheureusement pour nous.
La capitaine de l'équipe de France féminine de foot. Voilà. C'est vrai, vous jouez, vous marquez ou pas ?
Ouais, on marque.
Vous
on
êtes
marque,
goal ou attaquante ?
Non, moi je suis dans l'axe.
Et vous ?
Je fonce tout droit.
Ah non, moi je...
Hélène, c'est notre coach mental là.
Ok, voilà, magnifique. C'est ça. Hélène Zelani pour le journal de 7h sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, la matinale d'Europe 1, et c'est l'heure de retrouver Rémi Botsaron cette semaine sur le terrain, Nikos.
Et il est où ce matin, Rémi ? Bonjour Rémi, vous êtes où ?
Bonjour Nikos, eh bien, je suis au Salon de l'Agriculture, donc à Paris, et j'ai sous les yeux des produits que vous ne connaissez pas, Nikos, que personne ne connaît a priori en métropole, je le pense. Ce sont des produits de Wallis et Futuna, ces deux petites îles du Pacifique, et ces produits sont présentés pour la première fois, et ici, aujourd'hui, Port de Versailles. Allez, je vous donne deux exemples pour commencer, présentés par le président de cette délégation, Denis Hersam.
Ok.
C'est tout d'abord des chips de fruits à pain et des chips de taro. Le taro, c'est un peu comme le manioc. C'est excellent, sans gluten. C'est vraiment un goût de nos îles. On a apporté également du tui-tui, un parfum traditionnel utilisé par les femmes, fait à base de 4 graines et racines. Donc c'est vraiment l'odeur de chez nous. On est venu montrer ce qu'on était capable de faire et le voyage passe aussi par les odeurs.
Magnifique, ça fait voyager en effet. Des chips de taro, je ne connaissais pas. Pourquoi ces produits n'étaient pas encore arrivés en métropole ?
Eh bien, le problème, c'est que l'agriculture est à peine développée à Wallis et Futuna. Les habitants cultivent leur jardin pour se nourrir, mais il n'y a pas de structure, pas de transformation, pas d'exportation. Donc, ceux qui sont ici sont un peu des pionniers. C'est le cas de Tokotu Otilone. Lui, il produit de l'huile de tamanou, une huile végétale qui a des vertus cosmétiques. Mm-hmm. Il vient de lancer sa production.
La production reste artisanale, parce que je suis tout seul avec mon épouse. On essaie de développer ce produit-là parce qu'il a une haute valeur ajoutée. C'est un produit qu'on pourra exporter et avoir un petit peu de l'économie un petit peu qui rentre, parce que pour l'instant, on importe tout à Wallis. Donc si on arrive à exporter quelques produits, c'est ça bien. Quand je vois le potentiel qu'il y a dans mon île, il n'y a pas de raison.
Et l'un des atouts de l'île, c'est justement qu'il n'y a pas d'exploitation agricole, donc pas de pesticides. Donc ces produits sont a priori très sains, notamment son miel qui est présenté ici.
Et j'imagine, et puis j'imagine aussi que c'est très important pour eux et pour ces producteurs de passer au salon de l'agriculture, de cette mise en lumière.
Et oui, ils le disent, ils sont là pour représenter leur île. Il y a un enjeu de développement et ça ne concerne pas que l'agriculture.
Mmh. Ce qu'on voudrait, c'est structurer des filières, identifier quelques produits phares pour essayer de donner une image de Wallis et Futuna. À la fois vendre des produits et essayer de faire venir des gens chez nous, évidemment. On a pour le moment une centaine de touristes par an à peine. Donc on part du tout début pour le développement du tourisme, de l'agriculture, tous les domaines.
La journée importante donc pour Wallis et Futuna, qui est invité seulement aujourd'hui dans le hall de l'Outre-mer, mais qui espère bien avoir son propre stand ici l'année prochaine.
On leur souhaite. Merci Rémi Botsaron, avec nos compatriotes de Wallis et Futuna, au Salon de l'Agriculture. Très jolie
Nico
musique.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito éco avec vous, Daniel Fortin. Vous connaissez Wallis et Futuna ?
Pas du tout.
Bon, vous allez parler du McDo et du bio.
Oui, de l'agriculture
c'est
toujours.
C'est compatible ?
Eh bien, la preuve, McDo va acheter en effet massivement du lait bio en France. Et c'est le signe de l'industrialisation en cours de cette forme d'agriculture.
Vous nous expliquerez les dessous de cette histoire. 7h20, une question. Que vont devenir les cahiers de doléances du grand débat national ? Maintenant, il faut tout trier, tout synthétiser. Pourquoi et comment ? Enquête à suivre dans Europe 1 va plus loin.
Restez avec nous, vous êtes sur Europe 1, il est 7h14. Il est 7h15, les principaux titres de ce 27 février, avec vous Nico Saliagas.
Coup de théâtre chez Air France KLM, les Pays-Bas prennent plus de 12% du capital, avec l'objectif d'arriver au même niveau que l'État français, soit 14%. Le gouvernement français n'a pas été prévenu. Restrictions de circulation à Paris et en proche banlieue, mais aussi à Lille et dans sa métropole pour cause de pollution aux particules fines. Les véhicules les plus polluants n'ont pas le droit de rouler. En Australie, le cardinal George Pell est en prison avant même son procès en appel. Âgé de 77 ans, l'ancien numéro 3 du Vatican a été reconnu coupable de pédophilie. Un mot de football, le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Quadruple tenant du titre, les Parisiens ont battu Dijon 3-0 hier soir. À suivre notamment ce soir Lyon-Caen.
Europe 1. Et c'est l'heure de l'édito Éco, Nikos.
Avec Daniel Fortin, le rédacteur en chef du journal Les Échos. Alors c'est une première, on trouvera bientôt des glaces bio chez McDo. Le géant américain vient en effet de l'annoncer au Salon de l'agriculture. C'est sérieux, c'est compatible ?
Alors, compatible, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le signe d'une évolution importante dans l'agriculture biologique. Les chiffres sont parlants. McDo vient de signer avec la coopérative française Biolay un contrat pour commander 4,5 millions de litres de lait bio par an. Mmh. Ils serviront à fabriquer des glaces frappées dans les 1460 restaurants du groupe en France. Alors, je donne ces chiffres pour montrer qu'on est loin de la distribution un peu confidentielle des produits bio d'autrefois, réservés à une clientèle aisée, ce qui s'annonce chez McDonald's. Nous le voyons déjà dans tous les linéaires des supermarchés. Le bio devient plus qu'un produit d'appel, mais un nouveau vecteur de consommation de masse.
Est-ce que pour autant notre agriculture est en mesure de fournir cette nouvelle demande, Daniel ?
Alors non, pour l'instant non. On a pris beaucoup de retard dans la conversion des terres agricoles en bio. Aujourd'hui, 2 millions d'hectares seulement y sont consacrés sur un total de 29 millions. Il faut donc importer massivement les produits, ce qui n'est pas très écologique, mais aujourd'hui, cette nouvelle agriculture se développe à toute allure et ce qui est intéressant, c'est que le débat n'est plus l'opposition classique entre agriculture conventionnelle et ferme biologique, mais bel et bien de savoir comment développer des exploitations bio à très grande échelle pour fournir avec nos propres ressources une demande galopante, quitte à ce qu'elle soit soumise à des règles moins strictes qu'aujourd'hui.
Mais n'est-ce pas prendre le risque de dénaturer en quelque sorte la vocation du bio ?
Alors c'est tout le débat d'aujourd'hui. Où mettons le curseur ? Les partisans de l'industrialisation du bio font valoir que le marché est mûr pour changer d'échelle, que la demande est là, elle est massive et que pour faire du bio, il faut beaucoup d'investissements, beaucoup de technologies et seules des grandes fermes pourront y faire face. Alors ça n'est pas simplement un débat d'experts mais un enjeu majeur dont Bruxelles s'est déjà saisi pour réviser son règlement sur le bio.
L'édito Éco avec Daniel Fortin. Merci.
Europe 1, Nikos Aliagas. Il est 7h18, Europe 1 va plus loin et s'intéresse ce matin au cahier de doléances des Gilets jaunes. Alors où en sont les mairies ? Que vont devenir ces cahiers ? C'est l'enquête de la rédaction Nikos.
C'est à partir d'aujourd'hui le début de la deuxième phase du grand débat national, Anissa. Avec les quelques 10 000 cahiers citoyens qui ont été remplis en mairie, ils vont être maintenant numérisés dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Pierre Bulot.
Bonjour Nikos.
Vous suivez le dossier pour Europe 1. Ça y est, on ne peut plus rien inscrire sur les cahiers, ils ont été fermés, ça y est.
Ouais, ça y est, vous ne pouvez plus les remplir en mairie. Pour contribuer au grand débat, il reste Internet et des réunions publiques, mais les cahiers citoyens, c'est fini. Ces compilations de revendications et d'idées de gilets jaunes ou pas, d'ailleurs, il a fallu les rassembler. Tous les maires qui avaient un cahier à disposition ont dû l'envoyer en préfecture ces derniers jours.
Alors justement, on va prendre la direction des Hautes-Pyrénées, retrouver notre correspondant Benjamin Péter. Benjamin, vous avez pu consulter quelques-uns de ces cahiers, vous ?
Oui, ce sont des cahiers d'écoliers à grands ou petits carreaux. Alors certains sont vides ou n'ont qu'une ou deux contributions. D'autres débordent, comme celui de Luz Saint-Sauveur, par exemple. Et quand on les feuillette, on remarque que certains ont imprimé leurs doléances chez eux et l'ont glissé dans le cahier. D'autres ont pris le temps d'écrire, parfois sur plusieurs pages. À Bartrès, un village de 500 habitants, une cinquantaine de personnes ont participé. Le maire, Gérard Clavet, ne s'attendait pas à ça.
Il y a des citoyens qui ne sont jamais venus à la mairie, qui sont venus ce jour-là, qui se sont isolés à écrire. Les gens étaient quand même très intéressés par les cahiers qu'on avait mis en place.
Alors pêle-mêle, on évoque le RIC, l'ISF, le nombre de parlementaires, mais aussi des problèmes beaucoup plus locaux. À Cotteret, par exemple, une commune de montagne, des habitants demandent à être déneigés plus souvent. Viviane Artigalas, présidente de l'Association des maires de Haute-Pyrénées, remarque que beaucoup s'inquiètent de la disparition des services publics.
On ferme les trésoreries, on ferme les bureaux de poste, des écoles disparaissent. Nos territoires ruraux et de montagne se sentent abandonnés par l'État et donc du coup se tournent vers leur maire parce que c'est les derniers qui restent.
Voilà, alors ces cahiers, ils ont été photocopiés, les originaux restent à Tarbes, dans les archives, mais les copies sont parties à Toulouse et vont prendre la direction de la Bibliothèque nationale de France.
Voilà, les copies en train d'être transférées à la BNF. Merci Benjamin. Justement, Pierre Bulot, vous vous êtes rendu sur place. Qu'est-ce qu'elles deviennent là-bas, les copies des cahiers? Où est-ce qu'on les classe? Comment ça se passe?
Eh bien, c'est là-bas qu'elles sont numérisées. C'est indispensable quand on connaît la masse de données récoltées. Vous le disiez, plus de 10 000 cahiers. En nombre de pages, ça fait plus de 400 000 au total. C'est considérable. Sans oublier les initiatives plus individuelles ajoutées à ça, comme des lettres envoyées directement au président de la République ou au Premier ministre.
On va écouter votre reportage, Pierre Bulot, réalisé dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France.
Toutes les doléances, comme les lettres de revendication des Gilets jaunes, sont avalées par de gigantesques scanners aux allures de grandes photocopieuses. Mihari Rabenarivo est la chef du service numérisation de la Bibliothèque nationale de France.
On va avoir une production en moyenne de 25 000 pages jour. Alors à la BNF, comme on a l'habitude de traiter entre 17 millions et 20 millions de pages par an, on a l'habitude de traiter cette forte volumétrie.
Les documents numérisés sont ensuite stockés dans ces serveurs sécurisés. Le mois prochain, ils seront rassemblés en un seul fichier informatique à la disposition du gouvernement, raconte Arnaud Beaufort, directeur adjoint de la BNF.
La numérisation permet à des moteurs de recherche de pouvoir retrouver plus facilement le contenu.
Donc par exemple, je t'applique ou ISF et je peux voir combien de fois ça a été écrit dans ces cahiers de doléances.
En effet, du coup, c'est une aide évidente pour les analystes qui vont travailler sur ces documents.
Mais ça ne commencera pas avant le mois prochain, le temps de numériser les quelques 400 000 feuilles de revendications.
Voilà, en gros, on en a pour 4 semaines. Hein. Pierre, c'est quoi la finalité de cette histoire en vrai?
La dernière étape, Nikos, c'est l'analyse. 3 startups missionnées par le gouvernement auront accès en exclusivité à ce fichier informatique. Leur travail tient en un mot, synthétiser, faire de ces centaines de milliers de pages un rapport dans lequel ressortira les principales demandes ou inquiétudes de ceux qui ont écrit dans ces cahiers citoyens. Les résultats sont attendus pour le mois d'avril, puis dans la foulée, cette espèce de cahier de doléances informatiques sera mise en ligne et tout le monde pourra le consulter en quelques clics sur Internet.
J'espère que ce sera plus qu'un document sur ce que pensaient ou souhaitaient les Français au début du XXIe siècle et que ça aidera aussi les politiques à trouver les bonnes directions. Merci Pierre Bulot, merci Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie, pour ce dossier très fourni signé Europe 1 va plus loin.
Et vous pouvez réagir par téléphone au 39 21, 50 centimes la minute, vous nous laissez un message sur le répondeur ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, l'innovation avec Anissa Mbida, bonjour.
Bonjour Nikos.
Vous avez quelque chose qui rendra nos amis vegan heureux?
Oui, et même nos amis d'Auvergne heureux parce qu'on va pouvoir faire du vrai beurre, donc du vrai fromage, du vrai Saint-Nectaire, de la vraie fourme d'Ambert, sans aucune exploitation animale.
Ça veut dire il y a du lait ou pas dedans?
Oui, il y a du lait, mais c'est du lait sans exploitation animale. On va vous expliquer tout
mais
ça.
Mais c'est du lait qui sort d'un animal, on est d'accord?
Non.
Ah bon?
Non. Mais patient, ça va arriver tout à l'heure.
Vous savez teaser. Hein. Merci Anissa, à tout de suite.
Il est 7h24, bon réveil avec Nikos Aliagas. Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida.
Et vous l'entendez depuis quelques jours sur notre antenne, le salon de l'agriculture, notamment à 13h dans la France qui bouge. Et puis d'autres journalistes et animateurs de la chaîne qui s'y rendent quotidiennement. Mais il faut reconnaître que de nombreuses associations se battent aussi pour le bien-être animal sur place. On a entendu dans des reportages et Anissa ce matin... Vous avez peut-être trouvé de quoi rassurer les véganes, notamment avec des produits laitiers fabriqués sans aucune exploitation animale. Je ne comprends pas la subtilité de ce propos.
Et bien,
expliquez-moi.
Et bien, comment ça fonctionne? D'abord, ça fonctionne en laboratoire. Tout se passe dans un laboratoire sans toucher aucune vache. On synthétise de la caséine, hein, c'est la molécule et la protéine principale du lait. Et à partir de là, on peut fabriquer n'importe quel produit laitier. Donc de la crème, du beurre et surtout du fromage. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà rajouter du fromage, comme on dit. Hein. Le fromage, c'est le fromage vegan. Mais ça n'a vraiment, mais alors vraiment, vraiment rien à voir quand on aime du vrai bon fromage. Mm-hmm. Et bien désormais, on va pouvoir faire, je sais pas moi, du vrai camembert, de la vraie mozzarella avec exactement le même goût, puisque cette protéine a exactement la même structure moléculaire que celle du lait de vache.
Mais je ne comprends pas, cette molécule qu'on synthétise, on va la chercher où à la base?
Non, on la synthétise. C'est un peu comme quand on fait un médicament, quand on crée en laboratoire, on fabrique la caséine, on ne passe pas par l'animal. Donc c'est ça qui change tout.
C'est bidon, mais ça ressemble à...
C'est du vrai faux, c'est du Canada Dry de lait.
Mais c'est plus cher, j'imagine.
Non, justement, et ça c'est la bonne nouvelle, parce que les prix vont rester exactement les mêmes que ceux des produits laitiers traditionnels, avec du vrai lait, cette fois, du vrai lait de vache.
D'accord.
Avec une grosse différence quand même, c'est que ça utilise 65% d'énergie et 98% d'eau en moins, donc il y aura beaucoup moins d'impact sur la planète. Ce sont des biologistes de la société Perfect Day, hein, c'est une start-up américaine qui l'ont inventé. Et vous savez pourquoi ils ont appelé leur start-up Perfect Day ?
Non.
Et parce qu'ils sont tombés sur une étude qui démontre que les vaches laitières sont plus productives quand elles écoutent
Lou Reed.
Exactement, c'est la chanson Perfect Day de Lou Reed.
Mais n'importe quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du marketing. Vous entendez,
mais
Laurent
Cabrol. Mais c'est pas du marketing.
Ils prennent du Lou Reed. Ils mettent la vache dedans et c'est génial.
Elle fait du bon lait.
La vache aime Lou Reed, mais j'aurais.
Viens-moi les voir dans les écuries, dans les étables.
Avec leur... Perfect Day, une chanson d'amour orchestrée par David Bowie et son guitariste Mike Rosson. C'est la journée parfaite de Lou Reed à Central Park avec sa femme. Bref, hein, l'amour vache. Merci à Anis Mbida pour cette innovation. Bonjour mademoiselle, c'est Marguerite. C'est la vache et le prisonnier. Merci infiniment.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de François Geffrier. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
À 7h28, j'ai un moment de solitude quand je dis Marguerite, la vache et le prisonnier. Il n'y a personne qui réagit. Je suis le seul à l'avoir vu ou quoi? Hey, auditrice, auditeur, aidez-moi.
Mais moi, j'ai une jolie fleur à vous proposer dans une peau de vache. La jolie fleur, c'est le mimosa.
Oh, magnifique.
Le mimosa, parce qu'en ce moment, magnifique. Le mimosa est en fleur sur la Côte d'Azur. Et c'est Sophie qui habite Nice qui nous le propose, qui nous dit, voilà, entre Bormes et Grasse, vous avez la route du mimosa. C'est vraiment le moment de la visiter parce que aujourd'hui, ce sera encore... Et prendre des photos, ce sera une journée encore très, très ensoleillée. Mais cependant, il y a une petite curiosité, c'est-à-dire que cette région de la Côte d'Azur sera la moins chaude de France aujourd'hui, parce que nous avons des vents marins. Par exemple, il ne fera que 16 degrés. Oui, alors il y a Mistral. Non, c'est le vent qui vient de la mer plutôt, et c'est la raison pour laquelle il fait un peu plus frais. 16 à Nice, alors que nous aurons 27 degrés dans les Landes. Vous voyez que ce sont les vents qui guident un petit peu ces
températures. Soleil et fraîcheur, il n'y a rien de mieux.
Ah voilà, alors 16 à Nice, 18 à Marseille, vous voyez, là aussi il y a le vent marin. 19 à Lyon et Paris, 20 degrés à Rennes, 21 à Nevers, 22 à Bourges, 23 à Biarritz, 24 à Toulouse et 25 à Bordeaux sur les températures du jour. Bien sûr, sans commentaire en ce qui concerne la couleur du ciel, ce sera un grand ciel bleu.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Nous sommes le 27 février, il est 7h30, Nikos.
Et le journal est présenté par François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Elle lance un appel au secours sur Europe 1. Cette grand-mère qui vit dans le Pas-de-Calais et dont les trois petits-enfants, 5 ans, 3 ans et 1 an, sont aujourd'hui en Syrie, dans un camp de réfugiés. Leur mère est morte, leur père est prisonnier des forces kurdes. Et leur grand-mère, donc Lydie Manin-Keda, interpelle Emmanuel Macron.
Je lance un SOS au président de la République concernant mes trois petits-enfants qui ont perdu leur mère. Ils sont innocents, ils n'ont pas demandé à partir, ils n'ont pas demandé à naître dans un pays en guerre. Ils en ont subi beaucoup de souffrances, de séquelles. Le dernier a des cicatrices d'éclats d'obus sur le visage. Ces trois enfants sont abandonnés, confiés à des femmes qui ne sont pas leur mère. Manque de nourriture, manque de médicaments. Il y a aussi urgence sur le plan donc psychologique pour ces enfants de rentrer et d'être pris en charge par les services sociaux qui viennent vivre chez nous, qu'on puisse leur donner une éducation, qu'on puisse leur donner un avenir de citoyens français. Et je pense que la France a le devoir de les rapatrier pour qu'ils puissent se reconstruire.
Lydie Manin-Keda, témoignage Europe 1 au micro de Lionel Gougelot. Hier, Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé au sujet des enfants en Syrie et en Irak. Il dit simplement que les combattants français djihadistes seront judiciarisés dans ces pays.
Et le président français qui a évoqué hier les manifestations des Gilets jaunes aussi.
Il a remis les pendules à l'heure, à sa façon, au sujet des violences que l'on a connues ces dernières semaines.
C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec cette violence à certains moments et dans certains endroits, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part, justement, des forces de l'ordre. Et il faut maintenant dire que lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Je crois qu'aujourd'hui, la place doit être au débat, la place est à la réponse démocratique. Partout où elle est installée, elle sera ensuite dans les urnes pour les échéances à venir, pour celles et ceux qui veulent s'organiser. Mais on ne peut pas être dans une démocratie de l'émeute.
Emmanuel Macron au micro de Virginie Riva hier à l'Elysée, au cours d'un nouveau débat de plus de 6 heures avec des élus de la région Grand Est. 3, 2, 1, 0. Ce n'est pas un compte à rebours, mais les numéros des vignettes critères qui sont autorisés à rouler aujourd'hui en région parisienne et lilloise. La pollution aux particules fines contraint les autorités à interdire les véhicules classés 4 et 5. Lui a été autorisé à sortir hier après une semaine de prison. Alexandre Benalla a été remis en liberté et a fait une très courte déclaration à la presse. Attention, ça va vite.
Heureux et soulagé, et je remercie mon avocate Jacqueline Lafont qui s'est battue jusqu'au bout. Voilà, merci.
Voilà, merci, c'est ce qu'il dit à son avocate Jacqueline Lafont qui, elle, se félicite de cette libération.
On a tellement dit qu'Alexandre Benalla ferait l'objet d'un traitement de faveur, que s'il faisait l'objet de mesures aussi peu sévères, c'est que manifestement il y avait la main du pouvoir qui était derrière ce traitement-là. Que d'une certaine façon, il y a peut-être inconsciemment des magistrats qui pensent que pour prouver qu'ils sont des magistrats indépendants, eh bien, il faut qu'ils cèdent à cette pression-là. Et donc là, il y a des juges d'instruction d'expérience qui ont considéré peut-être avec un peu plus de maturité, de sang-froid, de courage, qu'il fallait faire du droit. La Cour d'appel a rendu la décision qui s'imposait. Il était absolument évident qu'Alexandre Benalla n'avait rien à faire en prison. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être rassuré de voir que des magistrats savent s'affranchir des pressions qui existent dans ce dossier.
Maître Jacqueline Lafont avec Pierre de Cossette pour Europe 1.
Bientôt des 3008 ou des 208 au pied des gratte-ciel de New York ou sur les routes de Californie.
Le groupe français PSA annonce son retour sur le marché américain, royaume des 4x4 et autres pick-up. Le PDG du constructeur français Carlos Tavares le dit ce matin sur Europe 1.
La marque Peugeot va revenir en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Dans les 3 prochaines années, ça va se produire. C'est la raison pour laquelle nous allons aussi revenir en Inde avec la marque Citroën. Et c'est la raison pour laquelle nous allons revenir en Russie avec la marque Opel. Pour nous, le plus grand risque, c'est que l'Europe ne se constitue pas comme une entité compétitive face à l'Asie et face à l'Amérique du Nord.
Carlos Tavares, président du directoire de PSA avec Emmanuel Dutheil. Un autre président, lui, va faire cours à des élèves aujourd'hui dans le Cher. François Hollande sera à Vierzon pour parler immigration, Europe et sécurité. Frédéric Couturier, proviseur du lycée Henri Brisson, se réjouit d'avoir un tel professeur.
C'est un cours avec un professeur hors norme, quelqu'un qui peut également raconter de l'intérieur. J'espère aussi que l'ancien président de la République pourra livrer quelques anecdotes sur le fonctionnement, sur les rencontres qu'il a pu avoir avec les chefs d'État européens. Donc voilà, on est vraiment au cœur du réacteur européen avec un acteur qui aura eu, au cours de ses 5 années de mandat, quelques crises à gérer. Finalement, les jeunes sont parfois éloignés de l'Europe et de ses enjeux. Voilà pour nous l'enjeu pédagogique d'une telle rencontre.
Frédéric Couturier avec Yasmina Katou.
Et puis une annonce ce matin sur Europe 1. Le président du jury du prochain festival de Cannes sera
Alejandro Iñárritu, réalisateur mexicain, 2 fois Oscar du meilleur réalisateur pour Birdman et The Revenant. Le délégué général du festival Thierry Frémaux nous explique ce choix.
C'est un cinéaste technicien, c'est un cinéaste auteur qui a un univers à lui, et en même temps c'est un fou de technique. Le Revenant, le film avec DiCaprio, est, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette attaque de l'ours, on a envie de savoir comment ça a été réalisé, c'est tellement magique. Et puis cet engagement, qui n'est pas un engagement idéologique, direct, qui est un engagement, j'ai une voix, je suis célèbre, j'ai un peu de pouvoir, alors je ne me tais pas. C'est aussi quelqu'un capable de stigmatiser très fortement la corruption dans son propre pays et ce qui ne va pas. Et là, on est content de le retrouver et de passer 2 semaines avec lui.
Thierry Frémaux avec Mathieu Charrier pour Europe 1.
Magnifique. Et les Mexicains sont à l'honneur. Hein. Les Oscars.
Absolument.
Le Festival de Cannes. Que pasa caramba! Merci. comment on dit en mexicain, François Geffrier?
Francesco.
Francisco. Francisco Geffrier.
Paco.
Merci beaucoup, Paco.
Il est 7h36.
C'est un cinéaste technicien. C'est un cinéaste.
Oui, un cinéaste Nico technicien.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Évidemment, lui, il n'est pas cinéaste technicien, il est journaliste qui observe la société. Cette semaine, Nicolas Bétou nous parle d'actualité politique. Et là, c'est Benoît Hamon qui est à l'honneur de votre chronique.
Voilà, je vais vous parler de Benoît Hamon et d'une OPA, une OPA des ONG sur les listes d'une gauche en miettes.
À tout de suite, 7h43, Axel de Tarlé.
Moi, je vais vous parler d'une autre PA. C'est Peugeot qui part à la conquête de l'Amérique, chez les Gringos, donc.
Los Gringos, voilà. 7h45, football féminin à l'honneur ce matin. On est à 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Et on en parle avec Amandine Henry, la capitaine des Bleus, ES. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
La filière laitière, c'est plus de 300 000 femmes et hommes passionnés, engagés et passionnants. Venez les rencontrer au Salon de l'Agriculture, Hall 1, sur le Stand France, Terre de Lait. Il est 7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Nicolas Bétou, le directeur du journal L'Opinion.
Et cher Nicolas, Benoît Hamon a présenté hier la liste qu'il conduira lui-même aux prochaines élections européennes.
Et voilà, et cette journée d'hier devrait rester comme un moment important dans la petite histoire de la gauche française. Benoît Hamon, je le rappelle, c'est 6% des voix à la dernière élection présidentielle, un score historiquement bas qui efface 50 ans de vie du Parti Socialiste. Alors depuis, il a quitté le PS, il a fondé son propre mouvement, Génération, et il a cherché à partir de cette nouvelle base à refonder cette gauche qu'il avait contribué avec d'autres à détruire. Et refonder, quand un paysage politique est dévasté, c'est rassembler.
Et donc cette liste pour les européennes est censée rassembler, c'est ça, hein ?
Eh bien non, ce sera même l'inverse. D'accord. Chacun est en train d'y aller de son côté. Le PS et son premier secrétaire Olivier Faure n'arrivent toujours pas à se décider, mais n'a qu'une certitude, il ne s'alliera ni à Benoît Hamon, qui d'ailleurs ne le souhaite pas, ni aux Verts, qui pensent que ces européennes sont un moment de grâce pour Yannick Jadot et les écolos. Mmh. Quant à Jean-Luc Mélenchon, son mépris pour tout ce qui ne procède pas de lui interdit tout rapprochement. Alors il reste les communistes qui, justement, font le choix de rester tout seuls.
Donc gauche totalement éparpillée.
Façon puzzle, voilà, exactement, avec des scores terribles. Tous les sondages actuels s'accordent sur un point. Aucune liste n'approche les 10%. Benoît Hamon est donné à 5%, comme le PS, 5%. Les communistes pointent à 2% et tout ce beau monde est emmené par les Verts, 8%. Et la France insoumise, 8% aussi, c'est-à-dire plus de 10 points en dessous du score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle il y a 2 ans.
Ouais, ouais. Si on fait le compte, ça donne quoi de tous ces petits pourcentages? C'est moins de...
Moins de 30%, voilà, ouais. C'est ça. Jamais la gauche n'a été aussi faible depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a bien des tentatives de renfort de la part d'intellectuels comme l'essayiste Raphaël Glucksmann et son mouvement Place Publique. Un mouvement d'ailleurs très symptomatique de ce qui se passe à gauche en ce moment. Il se décrit comme citoyen, écologiste et solidaire. Trois mots qu'on retrouve un peu partout dans les autres listes. Si vous regardez le profil des candidats, en effet, on s'aperçoit qu'un nombre très important d'entre eux vient des rangs des ONG. La tête de liste de la France Insoumise était porte-parole de l'organisation Oxfam. À côté d'elle, il y a une femme qui a écrit un livre sur le scandale des EHPAD. Mmh. C'est son domaine. Chez Benoît Hamon, on trouve le patron du SAMU Social de Paris et l'ancienne présidente de Médecins du Monde. Eh bien, cette OPA des ONG sur les listes, c'est aussi le symptôme d'une grande perte de repères des partis politiques. Quand on s'investit dans une ONG, à part les écolos, on ne milite pas pour un schéma politique ou idéologique global. Non, on défend une cause, un secteur, on bataille contre tel ou tel scandale. Alors, ce n'est pas une façon moins noble de faire de la politique, mais avec de telles listes, il est probable que la campagne électorale nous emmènera très loin des questions européennes.
L'analyse politique ce matin avec Nicolas Bétou. On va traverser l'Atlantique maintenant et on va parler de Peugeot aux États-Unis, mon cher Axel de Tarlé.
Alors Peugeot qui est culte aux États-Unis en effet, puisque vous savez que c'est la voiture de l'inspecteur Colombo qui avait une vieille Peugeot 403. Ah oui. Donc vous voyez, d'ailleurs c'est pas forcément une excellente publicité. D'ailleurs ça s'est mal terminé pour Peugeot qui a quitté les États-Unis il y a près de 30 ans, au début des années 90, et qui donc annonce aujourd'hui son retour aux États-Unis. D'abord, je voudrais dire que c'est une excellente nouvelle, parce que vous savez, quand on a envie d'Amérique, quand on a faim d'Amérique, bah c'est la preuve qu'on va bien, qu'on est en pleine forme, qu'on a l'appétit. De fait, hier, Peugeot Citroën a annoncé des résultats historique grâce à un coup de génie, le rachat d'Opel. C'est pas très connu, mais Peugeot Citroën a racheté il y a 2 ans Opel. Opel qui perdait de l'argent, qui était déficitaire depuis 20 ans. Et au miracle, en 2 ans, avec les Français, Opel est devenu rentable, chapeau bas quand
D'accord,
même.
Donc maintenant c'est cap sur l'Amérique.
Oui, parce qu'en fait Peugeot Citroën a un problème, c'est que 80% de ses ventes sont faites en Europe. Donc vous voyez, il faut un peu sortir du vieux continent, sortir de sa conquille. Donc c'est même une triple offensive. Vous avez Opel donc, qui va partir à la conquête du marché russe, Citroën qui va partir à la conquête du marché indien. Et donc nous y voilà,
Peugeot qui va partir à la conquête du à la reconquête du marché américain.
Mais qu'est-ce qui nous attend aux États-Unis? Personne n'attend Peugeot en réalité.
Alors écoutez, il y a trois choses qui rendent les Français optimistes. D'abord, en matière de voitures, les Américains ont maintenant les mêmes goûts que les Européens. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Colombo. Vous savez, les Américains, à l'époque, ils aimaient les grosses Cadillacs de 8 mètres de long.
Ça a changé.
Pas du tout les petites 403.
Nicolas Béthou à caisse.
Voilà.
Absolument.
Et donc maintenant, c'est vrai qu'on voyait les SUV de Peugeot, là, les 2008, les 5 minutes. Franchement, on pourrait très bien les imaginer dans les rues de San Francisco.
D'accord.
Deuxième point positif, Opel, on l'a dit, appartient à Peugeot Citroën. Mais Opel, il y a 2 ans, appartenait à General Motors, le champion américain de Détroit.
D'accord.
Donc les gens d'Opel qui travaillent pour nous connaissent parfaitement ce marché américain. Et donc ils seront de très bons conseils pour s'implanter aux États-Unis. Et puis le troisième point qui nous rend optimistes, c'est qu'on va y aller tout doucement aux États-Unis. On ne va pas arriver en mettant des usines partout.
Tranquille.
Donc on va exporter depuis la France. Et puis il y a un dernier point concernant la distribution. Peugeot nous promet une énorme surprise. Il y a un mystère, il y a un suspense, mais Peugeot nous promet d'être disruptif. Écoutez, Nikos, je propose qu'on réembauche, qu'on ressuscite l'inspecteur Colombo pour mener l'enquête. Écoutez.
Je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle.
Qu'est-ce que c'est comme voiture?
C'est une Peugeot de 1950. C'est une voiture très rare.
Il paraît qu'elle vaut 60 000 euros aujourd'hui en bon état.
Magnifique, vraiment?
Ouais,
ben j'en ai
sur le marché de l'occasion.
Ma femme me disait toujours, c'est toujours cette voix un peu étrange. Merci Axel de Tarlé pour le Zoom Echo quotidiennement sur Europe 1. Il est 7h44.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, on va parler football. 4-4-2 avec celle qui, on l'espère, sera la prochaine championne du monde de foot. Amandine Henry, la capitaine des Bleus. Et ce, alors que la France reçoit dans 100 jours pile la Coupe du monde de football féminin. Tout de suite.
Il est 7h46, les principaux titres à retenir de ce 27 février avec vous, Nikos Aliagas.
Vous ne pouvez pas prendre votre voiture aujourd'hui en région parisienne ou dans la métropole lilloise si vous avez une vignette critère de niveau 4 ou 5. Et ce, en raison d'un pic de pollution important aux particules fines. On y revient dès le début du journal de 8h, on vous dit tout. Les Pays-Bas veulent être à égalité avec la France dans le groupe Air France KLM. Le gouvernement néerlandais a acheté des actions de la compagnie pour tenter de peser plus dans la gouvernance et les décisions à venir. Après une semaine en prison, Alexandre Benalla et Vincent Kras ont été remis en liberté hier soir. On leur reprochait d'avoir violé leur contrôle judiciaire. Il s'agit toujours de l'affaire des violences contre des manifestants le 1er mai dernier à Paris. Et puis Donald Trump promet un avenir génial à Kim Jong-un, qu'il appelle son ami. Les dirigeants des États-Unis et de la Corée du Nord sont en pleine discussion à Hanoï, au Vietnam, sur le nucléaire et sur les sanctions internationales.
Europe 1. Nikos Aliagas, c'est dans pile 100 jours que sera donné le coup d'envoi de France-Corée du Sud. C'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de foot. Ça va se passer à Paris, au Parc des Princes. Une équipe en forme et qui y croit? Nikos, vous recevez ce matin la capitaine de l'équipe de France, Amandine Henry.
Bonjour Amandine Henry.
Bonjour.
Je voudrais qu'on revive ensemble ce match amical en janvier dernier au Havre contre les États-Unis. C'était sur l'antenne d'Europe 1 avec Cyril Delamorinerie. On écoute.
Oui, du bonheur, de la joie, les Françaises qui se félicitent, se congratulent, il y a des drapeaux tricolores partout dans ce stade Océane du Havre, parce que les Françaises ont réalisé un match plein, un match exceptionnel face aux Américaines. Vraiment, elles ont dominé pratiquement de bout en bout, 3-1 face aux triple championnes du monde.
La
victoire de votre équipe, 3-1 face aux États-Unis. Superbe moment. Demain, vous affronterez l'Allemagne en match préparatoire à Laval. Amandine Henry, à 100 jours de cette compétition, vous êtes dans quel état d'esprit?
Ça approche de plus en plus, on est excité, on a hâte que la compétition commence parce que ça fait pas mal de temps qu'on enchaîne les matchs de préparation, de compétition également, et on a hâte d'y être, et en même temps on profite aussi des derniers mois pour se préparer et pour finir les derniers détails.
Et puis la Coupe du Monde en France, c'est une première formidable et c'est peut-être aussi l'occasion de mieux faire connaître le foot féminin au grand public. C'est un sport en plein développement. Est-ce que vous avez conscience, Amandine, que vous pouvez aussi jouer un rôle d'ambassadrice?
Oui, tout à fait. On sait que depuis quelques années, le foot féminin évolue bien en France. Et je pense que cette Coupe du Monde va être le déclencheur aussi de l'avenir. Et je pense que par nos performances, ça peut aller vers le plus. Ouais.
Qu'est-ce qui différencie le foot féminin du foot masculin? Ok, c'est le même terrain, c'est le même ballon, ce sont les mêmes règles du jeu. Pour autant, on dit que ça va moins vite. C'est vrai ou c'est un mythe?
Oui, peut-être que ça va moins vite, parce qu'une femme ne courra jamais aussi vite qu'un homme, mm-hmm. ne sera jamais aussi puissante qu'un homme, mais je pense que sinon, il n'y a aucune différence.
On va parler un peu de vous, Amandine, maintenant. Vous jouez à Lyon, c'est la meilleure équipe française et européenne du moment, mais vous êtes une ch'ti, initialement, originaire de Hénin-Beaumont. Comment êtes-vous arrivée au football ?
Alors, j'ai une famille un peu de footeux, dont mon papa qui était passionné par le foot. J'ai des cousins aussi qui jouent au foot. J'étais pas trop poupée à la maison. Mm-hmm. J'étais plutôt dans le jardin à jouer avec mes cousins. Et puis, à l'âge de 5 ans, j'ai demandé à mon père de m'inscrire dans un club. Et puis, voilà, après, ça ne m'a jamais quitté.
Ça fait 14 ans que vous vivez sur un terrain avec un ballon de foot. Est-ce qu'on passe à côté de sa vie lorsqu'on arrive à un tel degré de compétition professionnel, à côté des rendez-vous importants que peut avoir une jeune femme à 14 ans, à 15 ans? C'est vrai pour les garçons aussi. Est-ce que vous avez senti ça, ou vous dites « je vais y aller à fond et on verra pour le reste après » ?
Non, au contraire, je pense que toute ma carrière, j'ai été épanouie. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait le sport, parce que je pense que des fois, ça nous permet de nous canaliser, surtout au niveau de l'adolescence. Mm-hmm. Ça nous apprend des règles de vie, des valeurs, et je suis bien contente d'avoir eu le foot dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, je pense être devenue une femme avec des valeurs.
Parce que quand on est ado, on est un peu rock'n'roll. C'était votre cas, Amandine, c'est ça ?
Non, mais on peut faire quelques bêtises, forcément. C'est l'adolescence, on teste les limites, on essaye plusieurs choses. Et tandis que quand il y a le foot, ouais. on est sur un fil conducteur quand même.
Si on peut transformer justement les bêtises en buts, ça marche dans le foot. Alors, vous avez été transféré à Lyon à 18 ans. Et là, vous avez eu un problème, Amandine Henry. Vous avez un problème assez grave au genou. Et vous êtes revenu de loin. En fait, vous avez subi une opération rare, une opération des cartilages. Jamais tenté, je crois, pour un sportif de votre niveau. Faut du mental aussi, au-delà de la technique et de l'entraînement.
Ah bah oui, c'est sûr que j'en ai quand même bavé, surtout au niveau des blessures. C'était une blessure rare. Et quand j'ai vu le chirurgien la première fois, qui m'a dit « c'est pas sûr que je rejouerai au foot de haut niveau »,
c'est dur.
C'est dur, mais d'un côté, on l'entend, mais ça sort directement, parce que pour moi, le foot, ça faisait partie de moi et je ne me voyais pas épanouie autrement.
Amandine Henry, est-ce que le foot féminin est assez populaire en France, ou est-ce qu'il est autant populaire que vous l'auriez souhaité ?
Oui, je n'ai pas à me plaindre, parce que quand j'ai commencé le foot, le professionnalisme n'existait pas pour les féminines, donc je n'ai pas à me plaindre. Après, forcément, on aimerait que ça évolue de plus en plus, mais je pense qu'on est les ambassadrices aujourd'hui pour que ça le devienne, et on fera tout pour les générations futures.
Ça vous fait quoi quand une jeune femme vous approche, ou un jeune homme pour un autographe, une photo ? Ça vous impressionne, ce côté star system qui existe aussi et qui monte chez vous ?
Ouais, c'est sûr que ça commence à monter en puissance, mais c'est une fierté, et puis c'est un honneur pour nous de montrer l'exemple.
Vous avez joué aussi, je crois, aux États-Unis, à Portland. Qu'est-ce qu'on apprend chez les Américains ?
Alors, j'ai appris la positive attitude, c'est-à-dire même quand c'est pas bien, c'est toujours bien, et toujours aller de l'avant, et puis vraiment être au service du collectif. C'est vraiment une équipe et c'est un management complètement différent.
La France peut-elle gagner cette Coupe du Monde ? Vous le souhaitez évidemment, mais est-ce qu'on est bien préparé ? Est-ce qu'on est bien par rapport aux autres ? Maintenant qu'en plus on a les hommes qui sont rentrés avec la Coupe du Monde, est-ce que ça peut vous donner aussi des ailes, mademoiselle ?
Oui, je pense qu'on doit surfer sur la vague. C'est positif. On sait qu'on a le soutien du public qui sera derrière nous. En plus, on sera à domicile. Et voilà, on va se transcender et on va se mettre à 200% pour rendre fière la France.
On sera avec vous, Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de foot, à 100 jours, pile du début de la Coupe du Monde. On vous suit avec passion sur Europe 1 jusqu'au coup d'envoi. Le 7 juin. Et c'est quand vous voulez pour un petit match.
Merci beaucoup.
Je vais
beaucoup.
Faire le malin, mais vous allez me balader si je viens avec la fontaine. Je vais me retrouver en train de courir derrière le ballon.
Allez, défi.
Allez. Merci beaucoup, Amandine.
Allez, merci.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir.
Et vous pouvez vous aussi soutenir l'équipe de France féminine pour cette Coupe du Monde qui commence donc dans 100 jours. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 et par téléphone. Tous vos messages dès maintenant, 39-21, 50 centimes la minute.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À ne pas manquer, dès le début du journal de 8h, pic de pollution dans la capitale. Les véhicules les plus polluants sont interdits à la circulation ce matin et la préfecture promet des contrôles drastiques. Nous irons Porte d'Italie à Paris pour faire un point sur la situation. Puis dans une petite minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Être une légende de skateboard, ça se transmet, oui, de père en fille. A tout de suite.
Il est 7h54, à tout de suite avec Nikos Aliagas.
Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Tous les jours avant 8h avec vous, Jean-Philippe Ballas, et ce matin, une vidéo qui circule beaucoup ces derniers jours et qui est vraiment croquignole, un père et sa fille, tout simplement.
Oui, alors le père n'est pas n'importe qui, c'est Tony Hawk, une légende du skateboard. Sa fille s'appelle Cadence, elle a 10 ans, et la voici justement en haut d'une rampe, un tremplin avec sa planche. Visiblement, c'est la première fois qu'elle s'élance d'aussi haut. Soyons clairs les amis, la gamine a plutôt la pétoche. Pas trop envie, elle fait un petit nom de la tête avec ses longues mèches sous son casque. Le père n'est pas complètement rassuré non plus, mais on l'entend prodiguer quelques conseils. Calmement, il lui prend la main, puis il s'éloigne. Elle va y aller. Elle y va pas... Elle y va presque, elle hésite. Allez, allez, c'est parti. Voilà, j'arrête le suspense. La môme a parfaitement réussi sa descente et les cris que vous entendez sont ceux du père, heureux et soulagé. Bon, on a un peu l'impression que sa fille vient de faire un double salto avec son skate. En fait, non. Elle a filé tout droit, simple, basique. Mais c'est pas ça l'essentiel. Si cette vidéo plaît autant, c'est parce qu'elle est universelle. Comme la première fois que vous faites du vélo sans les roulettes, le premier plongeon sans la bouée. Bref, le truc qu'on n'oublie pas et qui vous rend fier. Et puis il y a l'idée de transmission, bien sûr. Tenir la main, montrer la route, protéger, encourager, avoir peur un peu. Mais ne pas le montrer. Oui, il y a un peu tout ça dans cette vidéo d'une minute. Et vous savez quoi, finalement, la vie, c'est comme le skate. Si vous trouvez l'équilibre, alors vous aurez les bonnes sensations.
Oh, c'est dingue.
Van Halen, David Lee Roth. Ça fait du bien, Jean-Philippe Ballas, la petite histoire et un peu de musique. C'est la chanson préférée de Laurent Cabrol. Tous les matins, quand il tombe du lit, il entend... dans sa tête.
Oui, je t'entends.
Van Halen.
J'entends
il entend
vie,
des voix.
J'entends que la vie, c'est comme un timbre-poste, mais c'est tout. Mais il est vrai que cette journée sera une journée franchement très, très agréable. Je voudrais, sans gâcher le plaisir de tous ceux qui nous écoutent, vous raconter un petit peu la suite, vous dire que demain jeudi, nous aurons sur les deux tiers du pays un passage pluvieux avec du vent, c'est pas des pluies continues, hein, avec du vent et avec des températures qui commenceront à fraîchir. Il fera beau quand même sur la Méditerranée et sur Rhône-Alpes demain, si je puis dire. Beau, moyennement beau. Vendredi, un petit répit, mais toujours très frais. Et cette fois, la pluie se situera sur l'Est, avec des températures de 11 à 16 degrés au lieu de 14 à 27 aujourd'hui. Samedi et dimanche, eh bien, nous aurons deux perturbations qui vont traverser la France, c'est-à-dire deux zones de pluie. Et la semaine prochaine, pratiquement, on en compte une par jour, de ces zones de pluie
qui
seront là. Et en principe, hein, pour l'instant, on est encore un petit peu dubitatif, mais non, le temps change et résolument avec vraiment de la fraîcheur. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour réconforter nos cœurs, il fera entre 14 et 20 au nord, avec une bonne 19 degrés, un bon 19 degrés pardon, à Paris, à Dijon et Épinal, et 21 à Bourges, et 24 à Toulouse, et 27 dans les Landes. Je rappelle quand même que le record absolu du mois de février, c'est 31,5 degrés. Hein.
C'était quand ?
C'était en 1960 à Saint-Giron.
Ah oui. À Saint-Giron.
31,5 degrés.
Donc c'est bon, on est dans les...
On a un peu de marge. 27, on est des petits garçons. Quoi.
Donc c'est le dernier jour de soleil. Profitez-en. À partir de demain, le temps pourri revient. Merci Laurent Cabrol. Je vous imagine en train de faire un solo de guitare là-dessus, Laurent Cabrol. Vous m'impressionnez. Il est presque 8h du matin, il arrive David Doucan pour tout savoir sur l'actualité sur Europe 1 ce matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Très belle journée, il est pile 8h. À 7h09, votre matinale info avec Nikos Aliagas.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Il fait beau, mais on respire mal. Les véhicules les plus polluants interdits aujourd'hui à Paris et à Lille. Nous serons en direct sur un point de contrôle de la police dès le début de ce journal. La réforme de l'assurance chômage, les salariés avec de hauts revenus sont dans le viseur. Une diminution de leurs indemnisations est sur la table. On verra avec Emmanuel Dutheil que pour le gouvernement, c'est aussi un message adressé aux gilets jaunes. L'étrange journée de Donald Trump, il dîne ce soir à Hanoï avec Kim Jong-un, mais à Washington, son ancien avocat Michael Cohen s'apprête à tout balancer.
À 8h12, Vincent Herouet, l'inextricable imbroglio du Brexit. 8h15, l'interview politique avec vous, David Doucan. Qui recevez-vous ce matin ?
Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Ras-le-bol fiscal, assurance chômage, Brexit. Ah, et puis au fait, tous les gilets jaunes qui vont manifester le samedi sont complices du pire. C'est ce que pense Emmanuel Macron en tout cas.
Europe 1.
C'est comme ça, dès qu'il fait beau, dès qu'il n'y a pas de vent, les particules fines s'installent sur nos villes et dans nos poumons. Pic de pollution depuis plusieurs jours en région parisienne notamment, la province n'est pas épargnée, comme à Lille par exemple. Alors les véhicules les plus polluants sont interdits à la circulation à Lille, comme dans la capitale et dans sa proche banlieue. Bonjour Aude Vernuccio.
Bonjour David.
Vous êtes place d'Italie à Paris pour Europe 1, où les policiers sont en train d'effectuer leur premier contrôle.
Oui, les policiers se mettent en place et vérifient scrupuleusement les vignettes à poser sur le pare-brise des automobilistes. Attention, si vous avez une vignette 4 ou 5, vous n'avez pas le droit de circuler aujourd'hui à Paris et en proche banlieue. La frontière, c'est l'autoroute A86 qui entoure la capitale. De retour du travail, nous croisons Josette qui s'est fait arrêter sur le bas-côté il y a quelques minutes.
Ils m'ont contrôlé parce qu'apparemment j'ai pas la vignette R, puis je sais pas où je l'ai mise, mais je l'ai. Finalement, ils ont laissé tomber parce que je sais plus où elle est, mais ma voiture, elle est pas vieille, ça se voit sur les papiers. Donc à chaque fois qu'il y a des pics de pollution, c'est pareil. Donc, moi, mon cas, je suis infirmière et ça ne m'intéresse pas, quels que soient les pics de pollution. J'essaie de respecter les vitesses, ce que personne ne fait. Et hier, ils roulaient tous à 90.
Alors cette fois, la police a fait preuve d'indulgence. Simple rappel à l'ordre, mais vous risquez une amende de 68 euros en cas d'oubli ou si vous roulez avec un véhicule polluant. Préférez les transports en commun. Un forfait spécial est mis en place à 3,80 euros dans la capitale. À Lille et dans Haute-Commune, vous le disiez, de cette métropole, même chose. Vous pouvez rouler avec les vignettes 0 à 3, sauf si vous faites du covoiturage. À 2 ou plus, les policiers vous laisseront passer.
Merci Aude. Reportage d'Aude Vernuccio pour Europe 1.
Le gouvernement a repris la main hier sur la réforme de l'assurance chômage.
Oui, aujourd'hui, lorsque l'on gagne très bien sa vie et que l'on se retrouve au chômage, on peut toucher jusqu'à 7700 euros pendant 24 mois. C'est ce que le gouvernement veut changer, une manière de faire coup double, trouver des économies, tout en adressant un message politique pour répondre à la colère qui s'exprime depuis plus de 3 mois. Emmanuel Dutheil.
Les gilets jaunes demandent plus d'équité, et bien là, le gouvernement tape dans la poche des salariés les plus aisés à moindre coût. C'est très bien joué, c'est très symbolique. Voilà le jugement d'un entrepreneur proche d'Emmanuel Macron qui avait poussé pour un tel dispositif. C'est pareil pour le bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Il faut y aller, ajoute ce proche. Il ne faut pas l'oublier, hein, cette taxation, c'était une promesse du candidat Macron. Ça peut être aussi un marqueur très important, complète un ministre de premier plan. Je ne sais pas si c'est une réponse directe aux gilets jaunes, mais ce qui est sûr, c'est que cette crise permet de faire passer rapidement et fermement de telles mesures, confirme un autre proche. Il faut, dans tous les cas aujourd'hui, réformer dans une logique de plus de justice sociale. Et là, ça va totalement dans ce sens, assure ce proche. En tout cas, en ce moment, dans les ministères, ça phosphore. Les réunions se multiplient pour proposer des réformes liées au grand débat. Les grandes lignes seront arbitrées dans les jours à venir directement par Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Dutheil, le chef du service France d'Europe 1. Décathlon a annoncé hier renoncer à la commercialisation de son hijab pour la course à pied. L'enseigne sportive a finalement préféré abandonner face à la polémique et aux nombreuses réactions politiques.
L'État néerlandais s'invite au capital d'Air France KLM pour défendre ses intérêts.
Oui, le gouvernement des Pays-Bas a acheté des actions pour avoir une participation directe de 12,68% dans la compagnie aérienne. Ils font x2. Pour rappel, la France détient 14,3% du groupe. Les Néerlandais ont agi par surprise. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, a regretté que le gouvernement n'ait pas été informé. Et écoutez la réaction à chaud de Christophe Malogy, délégué syndical FO chez Air France.
Première réaction, c'est que ça nous inquiète. Soudaineté, puis le fait qu'on se rende compte que le gouvernement français n'est pas au courant, c'est étonnant. Surtout provenant d'un gouvernement qui prône le capitalisme et les sociétés privées, dans lequel l'État ne doit jamais trop investir dans les capitaux, quoi. Là, comme ça, cette montée en puissance, ça démontre qu'il y a une volonté d'être un peu plus rugueux et d'être un peu plus dans le bras de fer. Donc, c'est pas quelque chose de très positif et ça va pas engager une situation saine et sereine dans les mois à venir.
Christophe Malogy du syndicat FO d'Air France avec Aurélien Fleureau. Déclaration du président de la République devant les élus du Grand Est hier à l'Élysée. Lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire, a lancé Emmanuel Macron, qui s'est élevé contre ce qu'il appelle la démocratie de l'émeute.
Europe 1.
L'étrange journée de Donald Trump à suivre dans le journal de David Doucan. Avec Kim Jong-un à Hanoï au Vietnam. Quelle rencontre à Washington, son ancien avocat passe à table. On vous dit tout dans quelques instants, juste après ça.
Il est 8h. 7h07, la matinale avec Nikos Aliagas.
Et la suite du journal de David Doucan, nous allons parler de cette étrange journée de Donald Trump.
Oui, le président américain est à Hanoï, au Vietnam, avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Mais au même moment, son ancien avocat Michael Cohen va témoigner tout à l'heure devant le Congrès. Et ce qu'il a à dire n'arrangera pas les affaires de Donald Trump. Xavier Yvon.
Sur l'écran de CNN, tout est en place. Les images de Donald Trump arrivant à Hanoï et en bas à droite, la photo de Michael Cohen avec le compte à rebours avant son témoignage au Congrès. Dans quelques heures, le président américain se mettra en scène en faiseur de paix au Vietnam aux côtés de Kim Jong-un en rêvant au prix Nobel. Et dans le même temps, à 13 000 km de là, dans une petite salle à Washington, son ancien avocat personnel dépeindra un tout autre Donald Trump, menteur, raciste, et surtout capable d'enfreindre la loi, même à la Maison-Blanche. Michael Cohen, c'était l'arrangeur, le gardien des secrets des Trump, prêt, disait-il, à prendre une balle pour son patron. L'avocat a plutôt pris 3 ans ferme, notamment pour avoir payé le silence des maîtresses du milliardaire pendant la campagne. Alors avant d'aller en prison, il promet de balancer documents à l'appui. À la Maison-Blanche, on démine par avance. Michael Cohen a déjà tellement menti qu'il n'est plus crédible, dit-on. Mais les conseillers de Donald Trump s'inquiètent pour le sommet de Hanoï. L'audition de l'ex-avocat sera suivie en direct par des millions de téléspectateurs. Et si le président sent qu'on lui vole la vedette, il pourrait vouloir faire des annonces spectaculaires, quitte à faire des concessions trop importantes à Kim Jong-un. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et Donald Trump, qui dîne ce soir avec Kim Jong-un, a tweeté tout à l'heure. Il promet, je cite, un avenir génial à la Corée du Nord si elle décidait de renoncer à son arsenal nucléaire.
En cette période de vacances scolaires, on va conclure ce journal avec un conseil pour vous, parents qui nous écoutez.
Oui, vous qui êtes bilingue, Nikos, vous allez tout de suite comprendre cette expression, le « slow parenting ». Toujours avec cet accent, hein, vous le notez.
Bien. Very nice.
Alors,
accent.
Comment traduire en français « slow parenting », disons, prendre éduquer en prenant son temps, voilà, prendre le temps tout en éduquant. Eh bien, c'est une tendance, l'idée qu'il ne sert à rien de dire à son enfant « dépêche-toi », cela génère du stress pour un être qui n'a parfois pas la notion du temps.
Ou la même notion du temps, c'est vrai.
Oui, ou aucune, même aucune, vous allez l'entendre. Parfois, aucune notion du temps. Reportage Virginie Salmen.
Aurélie, mère de 2 enfants de 2 et 5 ans, a suivi une formation pour arrêter de stresser ses enfants.
J'ai arrêté de dire « dépêche-toi mes enfants » il y a à peu près 1 mois. On a déterminé ensemble l'enchaînement des choses, à savoir « bon bah le matin, tu préfères quoi ? Prends ton petit déjeuner d'abord ou t'habiller. » Après, ma fille a dit « bon bah ok, maintenant il faut que j'aille me brosser les dents. » Donc là, mon mari, lui, a eu l'idée de mettre une petite sonnerie. Et donc la sonnerie, on sait à quelle heure elle arrive. Et après, il y en a une deuxième. Et donc là, les enfants courent dans la salle de bain pour se brosser les dents. Et finalement, tout le monde part tous les jours à l'heure.
D'ailleurs, avant 7 ans, pas la peine de leur dire « dépêche-toi » puisqu'ils n'ont aucune notion du temps. Et ce n'est pas une façon laxiste d'élever ses enfants, nous dit la pédiatre Catherine Guéguin. Les neurosciences démontrent qu'un stress fort va jusqu'à détruire certaines parties du cerveau. Au contraire, la bienveillance le booste. Et ça, ça se voit nettement au scanner.
C'est absolument prouvé scientifiquement. Ça modifie les molécules cérébrales et ça agit également sur l'expression de certains gènes. Donc ça modifie les gènes parce que l'enfant a un cerveau très fragile et très malléable.
Une solution, par exemple, prévoir une demi-heure le matin à votre enfant pour s'habiller, 10 ou 15 minutes, c'est faisable pour un adulte, mais c'est trop court pour un enfant.
Virginie Salmen pour Europe 1, vous le faites ça ? Vous prenez le temps avec vos enfants, vous Nicolas ?
Moi je leur dis qu'on est tout le temps en retard.
Ouais, c'est ça moi aussi. Dépêche-toi, on le dit en permanence. Bon, le prochain festival de Cannes sera présidé par Alejandro Iñárritu, le réalisateur mexicain connu pour ses films multi-oscarisés The Revenant ou Birdman.
On vous retrouve tout à l'heure, cher David Doucan, dans quelques minutes, dans 5 minutes pour l'interview politique avec Gérald Darmanin. Merci beaucoup.
Et vous aussi, vous pouvez réagir à l'actualité. Dites-nous si vous vous dépêchez, vous aussi, avec vos enfants sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Et coup d'œil à l'international à 8h11 avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Ah, vous nous emmenez à Londres ce matin. C'était hier à la Chambre des communes. La Première ministre Theresa May s'est résignée.
Le gouvernement présentera le 14 mars une motion sur la question de savoir si le Parlement veut une extension courte et limitée de l'article 50. Et si la Chambre vote en faveur de cette extension, on demandera à ce qu'elle soit approuvée par l'Union européenne. Et nous présenterons la législation nécessaire pour changer la date du Brexit en fonction de cette extension.
C'est un peu plus clair. La Première ministre n'exclut plus un rapport du Brexit, c'est ça ?
Mais Theresa May a cédé. Son chantage a fait long feu. Elle a joué la montre. Elle a perdu. La date butoir était la fin mars. Et elle laissait aux députés un seul choix, l'accord avec Bruxelles, qu'ils ont déjà rejeté, mais qu'elle tente d'amender, de faire briller, ça donc ou rien. Elle s'est employée à vider le sablier pour qu'il n'ait plus le temps de chercher un plan B, une échappatoire, un nouveau Premier ministre, qui sait, et qu'il n'y ait qu'une seule alternative, le deal avec le fameux backstop irlandais qui leur fait horreur, ou pas de deal du tout, la cohabitation avec l'Union européenne ad vitam aeternam, ou le célibat, mais à la rue et en chemise. Dans le smog du Brexit, il restait donc jusqu'ici une certitude, une seule. Le 29 mars, à minuit, l'heure du crime, mais à 23h, au méridien de Greenwich qui coupe Londres en deux, eh bien les Britanniques verront disparaître le carrosse européen si décrié pour retrouver leur bonne vieille citrouille 100% rosbif. Sauf qu'hier soir, donc, Theresa May a cédé, ses ministres l'ont lâché, et si les députés rejettent le deal, puis rejettent le non-deal, eh bien ils pourront demander un sursis, une extension courte et limitée.
Est-ce que l'Union européenne est en mesure d'accepter cette prolongation, Vincent ?
Alors, vendredi, ici même, dans ce fauteuil, le commissaire Barnier, très sévère, expliquait avec son ton inimitable que l'Europe n'avait pas besoin de temps, mais de décision. Dimanche, ici même, dans ce fauteuil, le commissaire Moscovici, implacable, expliquait qu'il restait 33 jours, pas un de plus, aux Britanniques pour dire ce qu'ils veulent. Et puis, tel un juge de paix, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a admis qu'un délai supplémentaire serait une solution rationnelle. On rigole jaune au commissariat. La morale de l'histoire, c'est que les Britanniques participent au Conseil européen depuis un demi-siècle. Ils sont contaminés. Le réflexe communautaire, c'est toujours de mettre la poussière sous le tapis. La devise de l'Europe, ce n'est pas « L'union fait la force », ce n'est pas « Vive les normes, abat les nations ». La vraie devise, c'est qu'il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par régler. Conclusion, ce Brexit chaotique va continuer à occuper et à boucher l'horizon, au-delà des élections européennes, jusqu'à l'été, et le reste attendra.
L'analyse de l'actualité internationale avec Vincent Hervouette.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans deux minutes, l'interview politique d'Europe 1. Emmanuel Macron se dit favorable à baisser les impôts, facile à dire. Et pour la mise en pratique, on fait comment ? Il posera la question à Gérald Darmanin. C'est David Doucan pour l'interview politique.
Il est 8h14. À tout de suite sur Europe 1. Il est 8h15, Nikos Aliagas.
Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est votre invité, David Doucan.
Bonjour Gérald Darmanin.
Monsieur.
Bonjour. Le président de la République hier s'est dit favorable à faire de la baisse de la fiscalité une priorité de l'après-grand débat. Alors pouvez-vous, par exemple, ce matin prendre un engagement, celui que plus aucun impôt, plus aucune taxe n'augmente d'ici la fin de ce quinquennat ?
Ce qui est certain, c'est que nous l'avons déjà fait. Nous sommes le gouvernement qui a le plus baissé les impôts depuis ces 40 dernières années. Nous avons baissé l'impôt sur les sociétés, la taxe d'habitation, nous avons supprimé des impôts, le prélèvement forfaitaire unique, évidemment l'ISF qui fait parler de lui. Et nous sommes dans une baisse de fiscalité qui est supérieure aux promesses du président de la République. Alors ce qui est certain...
Mais Gérald Darmanin, ce n'était pas ma question.
Non, mais ce qui est certain...
Est-ce que pour l'avenir, on peut...
Je vais y répondre.
Allez-y.
Ce qui est certain, c'est que si nous souhaitons encore plus baisser les impôts, et moi je partage évidemment l'opinion du président de la République et finalement celle des Français, puisque nous sommes le pays où il y a le plus d'impôts en Europe, mais il faut baisser les dépenses aussi. Mm-hmm. Et dans ce grand débat, moi j'entends beaucoup de propositions autour de la fiscalité, en hausse ou en baisse, ou en changement, et assez peu dans les dépenses. Nous sommes un système, et chacun peut le comprendre derrière... son transistor aujourd'hui, si on a trop de dépenses, il faut des recettes. Et donc maintenant, il va falloir qu'on rentre dans un débat où il faut savoir quelles dépenses on baisse pour pouvoir baisser les impôts. Je prends l'engagement, en tout cas, si nous arrivons à baisser les dépenses, nous arrivons pour l'instant à les contenir, nous arriverons à baisser les impôts. Et effectivement, nous baisserons tous les impôts que souhaite le président de la République et la majorité parlementaire.
Mais est-ce que des taxes, des prélèvements, des impôts vont être amenés à encore augmenter ? Le ras-le-bol fiscal, c'est ça c'est la notion... Que tout cela n'augmente plus.
Oui, non, je ne le crois pas. Il n'y a pas de projet d'augmentation des taxes ou des impôts. Vous savez qu'il y a le débat autour de la taxe carbone, qui est une augmentation d'impôts, qui a été abandonnée, si j'ose dire, dans l'année 2019 par le président de la République. Ça pose la question de l'écologie. Sans doute n'était-ce pas un bon moyen de faire la transition écologique que cette taxe carbone. Je crois que le président de la République l'a compris et l'a retirée.
Et le président de la République a aussi envoyé un message à ses ministres. Vous compris, depuis quelques semaines, le message était troublé. Vous parliez de raboter les niches fiscales pour les plus riches. Jacqueline Gourault voulait élargir l'impôt sur le revenu à l'ensemble des foyers fiscaux. C'est fini, le concours l'épine fiscale ?
Non mais c'est des sujets très différents. En ce qui me concerne, moi j'ai évoqué que sur 14 milliards de réduction et crédit d'impôt, 7 milliards sont au profit, si j'ose dire, des plus riches d'entre nous.
Les 10%.
Et hein, voilà. Ça, ouais. Et moi, je proposais non pas de supprimer des niches parce qu'effectivement, ce serait une augmentation pure d'impôts, mais d'utiliser l'argent pour baisser l'impôt des classes moyennes. Notamment l'impôt des 20 millions de Français qui sont de la classe moyenne et qui, je crois, sont assez étouffés par l'impôt et profitent peu de ces niches fiscales par ailleurs. Donc, ma proposition est une proposition de baisse d'impôts.
Il va bien falloir faire. Et vous la maintenez, vous la maintenez aujourd'hui.
L'arbitrage, bah, elle n'est pas fait partie du débat.
Fait partie du débat.
Et il n'y a aucun débat. D'ailleurs, beaucoup de parlementaires, la Cour des comptes elle-même, encore dans son rapport, a évoqué tout dernièrement, faut-il que le gouvernement prenne en compte ce que dit la Cour des comptes, c'est ce que demande la Vox Populi. Bah voilà, on peut tout ça, en tout cas, l'étudier, le regarder. Mais, vraiment, c'est un sujet important. On peut parler, je sais que ça passionne tout le monde, les impôts, en hausse ou en baisse. La justice fiscale, l'égalité fiscale, un bon impôt, c'est un impôt qu'on ne paye pas et que paye l'autre, grosso modo, pour les Français, si je suis un peu provocant. Mais la question des dépenses est plus importante. Nous avons le pays qui avons à la fois le plus d'impôts et le plus de dépenses.
Et venons-en aux dépenses publiques. Il y a un engagement qui a marqué tout le monde lorsqu'on a suivi la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. Il avait dit 120 000, en réalité pour l'État, pour la fonction publique d'État, c'est 50 000. Les collectivités territoriales devant faire l'effort, selon la volonté du président, de 70 000. En 2018, c'est 1600 fonctionnaires de moins. En 2019, 4200. Cette promesse peut-elle en réalité être tenue ?
Alors, ce n'est pas des fonctionnaires de moins. On ne supprime pas des fonctionnaires. On ne remplace pas des postes, notamment de gens qui partent à la retraite.
Des
c'est
postes.
Quand même important. Ouais. On ne vire pas en France, évidemment, des agents publics.
Ce sont des non-remplacements. Lorsque Nicolas Sarkozy avait fait le 1 sur 2, c'était 30 000 de moins chaque année. Là, 1600
oui, nous avons choisi
en 2018, 4 000 de moins.
Nous avons 2019. Choisi de faire quelque chose de différent, qui consiste notamment à dire que nous allons avoir moins d'agents publics qu'après avoir fait des réformes. C'est la conséquence. Effectivement, on ne fait pas le 1 sur 2 ou le 2 sur 3, qui peut être efficace, qui a pu être efficace et qui à la fin est un peu comptable et qui désespère Billancourt et notamment les agents publics qui font un travail important au service des territoires ou de la République. Mais nous, on souhaite faire des réformes et ensuite avoir le nombre d'agents qui correspond à ces réformes. Je prends un exemple. Lorsqu'on supprime la taxe d'habitation, je prends l'exemple de mon ministère. Lorsqu'on supprime la taxe d'habitation, il y a aujourd'hui 3 000 postes à la Direction Générale des Finances Publiques qui travaillent autour de cette taxe d'habitation. Alors, soit vous considérez que vous devez les utiliser pour faire autre chose. Il y a des gens qui nous demandent de renforcer les territoires, de faire plus de conseils aux citoyens. Et puis nous considérons que si on supprime un impôt, eh ben on peut légitimement se dire que lorsqu'on l'aura supprimé en 2021 complètement, eh ben on n'aura pas besoin de 3000 postes d'agents publics pour s'occuper d'un impôt qu'on a supprimé.
Au passage, vous nous confirmez que ce sera complètement 100% des Français.
Exactement.
Bon. Mais attendez,
ce qui est important, c'est la conséquence.
Ouais. Non, mais c'est la conséquence
des réformes.
Mais Gérald Darmanin,
c'est pas les mêmes missions,
vous
les mêmes agents.
Ce ne sont pas les mêmes valeurs, les mêmes volumes. Vous me dites 3000 personnes qui travaillent sur la taxe d'habitation pour atteindre 50 000. On en est à un peu plus de 6 000. Cette promesse semble intenable.
Si,
c'est ça la réalité.
Cette promesse sera tenue. Elle n'est pas tenue, mais cette promesse, elle n'est pas tenue parce qu'il faut être un petit comptable et noter sur un tableau Excel à l'ETP près ce que nous faisons.
Dans ce cas-là, il ne faut pas le faire pendant la campagne.
Ça sera peut-être un peu plus, ça sera peut-être un peu moins, nous en discuterons, et notamment avec les agents publics, parce qu'il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas eu de grand débat en ce moment. En revanche, ce qui est important, le signe que l'on donne, c'est qu'il faut que l'État se transforme. C'est difficile de se transformer. Il faut que l'État dépense moins, parce que s'il dépense moins, il y aura moins d'impôts. Ceux qui vous racontent des garnousettes, je constate qu'un certain nombre, garnousettes, c'est effectivement l'expression du Nord. Des histoires qui vous disent on peut à la fois baisser les impôts et augmenter les dépenses, ils vous mentent parce qu'ils augmentent le déficit et donc ils augmentent la dette.
On avance.
Et donc il faut être responsable et j'aimerais, dans ce grand débat, désormais, il nous reste 3 semaines, nous parle aussi des baisses de dépenses.
On avance, Gérald Darmanin. Est-ce que les Français qui parfois revêtissent un gilet jaune et qui vont manifester chaque samedi depuis 15 semaines sont les complices du pire, comme l'a dit Emmanuel Macron?
Désormais, le président de la République a dit des choses qui ont la force de l'évidence. Désormais, qui ne voit pas que les manifestations qui se déroulent dans nos centres-villes ou à Paris sont des manifestations qui attaquent des policiers, qui attaquent des journalistes, qui s'en prennent aux biens publics? Il est évident que désormais les choses doivent s'arrêter et que si au début, un certain nombre de manifestants, bien évidemment, souhaitaient simplement manifester leur désaccord sur la taxe carbone ou de manière générale contre le pouvoir ou contre tel ou tel position que pouvait avoir l'État ou le gouvernement, aujourd'hui, au bout de 15 samedis, avec des violences inouïes, des actes antisémites extrêmement forts, des choses extrêmement choquantes, effectivement, l'évidence est désormais qu'ils sont complices. Bien
si on continue d'y aller, on est complices, on vous a entendu. Dites-moi, Decathlon, l'enseigne sportive Decathlon, a renoncé à la commercialisation de son hijab pour la course à pied, alors que c'est totalement légal. Que pensez-vous de cet état de fait ?
Bon, moi, je constate que l'entreprise Decathlon a retiré, puisqu'ils l'ont annoncé hier, la vente de ce hijab, comme vous dites, sur le sol français, en tout cas dans ces magasins français. Mmh. Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est légal. Est-ce que ça me choque ? Oui, ça me choque.
Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'ils aient renoncé ou qu'ils aient essayé de le vendre ?
Bah, qu'on fasse de l'argent surtout, comme disait le président du Sénat, je trouve que Gérard Larcher a eu la bonne formule. Moi, en 2012, j'essaie d'être extrêmement constant sur ce point. Pourtant, chacun connaît mes positions, je crois, assez fortes sur la question de la laïcité. J'avais interpellé Valérie Fourneyron, qui était ministre des Sports, quand j'étais jeune député, sur le fait que, me semble-t-il, le sport comme l'école doit être un lieu où on ne doit pas regarder les distinctions religieuses.
Mais attendez.
Mais c'est une question qui n'est pas une question de légalité, évidemment.
Ah, bah si.
Non, non,
si c'est légal, c'est qu'on a le droit de le faire. Alors,
c'est une question politique.
Si la pression tel ou tel vous empêche de faire quelque chose qui est légal, c'est la liberté qui est mise en cause. En l'occurrence, la liberté de commerce.
Oui, mais je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce.
Oui, mais...
Bah oui, bah,
alors dans ce cas, il faut changer son camp. Dans ce cas, Gérald Darmanin, il faut changer la loi sur la laïcité. Bah, d'ailleurs, vous y travaillez.
Il appartient au Parlement. Moi, je n'y travaille pas puisque je suis ministre des Comptes publics. Il me semble que j'ai déjà assez de travail comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce, si c'est votre question.
Bon, l'État hollandais s'est invité au sein du capital d'Air France pour atteindre un peu plus de 12%. Bruno Le Maire a exprimé hier une forme d'agacement, de ne pas avoir été prévenu. Mais au fond, est-ce que finalement, on peut les comprendre, les Hollandais? La France pèse énormément sur toutes les décisions, encore récemment sur le choix de Ben Smith. Ils ont envie de rééquilibrer.
Ben Smith, le nouveau président d'Air France KLM. Moi, j'ai entendu effectivement le constat que ni le conseil d'administration d'Air France KLM, ni le ministre de l'économie et des finances n'ont été prévenus. Bon, écoutez, il faut qu'on ait des bonnes relations avec nos amis des Pays-Bas. C'est une très grande entreprise qui a beaucoup de salariés, qui est très importante pour l'Europe. Très importante pour ce que, dans la compétition internationale, nous devons garder comme grande entreprise européenne. Mmh. Il faut surtout que les États se mêlent le moins possible de la marge d'une grande entreprise comme celle-ci. On a un nouveau patron, il y a une nouvelle transformation de cette belle entreprise. Mmh. Je crois qu'il faut désormais laisser les gens d'Air France travailler.
Sur l'assurance chômage, la réforme qui s'engage, qui doit être finie à l'été avec la publication de décrets, il y a l'idée de réduire, de diminuer les indemnités pour les salariés qui ont les plus hauts revenus. D'abord, c'est quoi un salarié avec un haut revenu ? Est-ce que vous avez déjà une idée d'un seuil ?
Le plafond, c'est 7 440 euros. Il est trois fois plus important qu'en Allemagne,
par
exemple.
Le plafond d'indemnité, ça.
Oui.
Mais à partir de quand est-ce qu'on est un salarié qui gagne bien sa vie ?
Comme vous touchez en général 70% de votre salaire net, donc grosso modo, vous touchez 10 000 euros par mois. À 10 000 euros par mois, vous touchez en France 7 440 euros.
Mais ces salariés-là, lorsqu'ils tombent au chômage, ils ont beaucoup cotisé. Pendant des années, ils ont cotisé davantage que les autres. Est-ce qu'il y a une notion de justice ?
Vous aurez constaté que nous avons justement de la suite dans les idées, puisque nous avons supprimé des cotisations, ces salaires ont augmenté, vos salaires ont augmenté, et à la place, on a fait la CSG. C'est-à-dire qu'on a remplacé l'impôt. Auparavant, il y avait de la cotisation. Donc c'est l'impôt de tous les Français, y compris des retraités, qui payent désormais en partie le chômage. Donc votre argument, en tout cas techniquement, ne compte plus.
C'est pas un argument, c'est une question.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des abus, parce que pendant deux ans, on peut effectivement toucher 7 440 euros, trois fois plus qu'en Allemagne, alors que les cadres, dans leur très très grande majorité, n'ont pas de problème pour retrouver un travail. Donc je crois qu'effectivement, si ce qu'on appelle la permittence et contrat court, les entreprises doivent faire des efforts, les cadres aussi, me semble-t-il, doivent en faire. Il n'est pas tout à fait normal, à l'heure où il y a 9% de chômage, alors que plein de gens cherchent plein de cadres pour travailler, on a encore ce système. Donc je trouve que c'est une mesure courageuse. Vous voyez, on demandait où est-ce qu'on fait des économies. Ouais. Tout le monde est d'accord pour baisser les impôts. Il faut aussi se mettre d'accord pour faire des économies.
Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, un dernier mot. Vous souhaitez être à nouveau maire de Tourcoing en 2020 ?
Ce qui est formidable, c'est vraiment un running gag. Ça fait désormais deux ans qu'on parle tous les jours de Tourcoing. Est-ce que je serai candidat, pas candidat ? J'invite tous les journalistes qui me posent la question à venir habiter ma belle ville. Je répondrai d'abord aux habitants de Tourcoing et aux journalistes de la Voix du Nord en premier, si vous me le permettez.
Donc c'est un plan média. Mais sur le fond, vous avez le droit d'avoir une ambition au niveau de votre mairie, de votre ville.
Dans un mois, dans un an, combien souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ? Je vois pas pourquoi je serais plus rapide que Bérénice.
Gérald Darmanin qui finit en poésie. Merci à vous.
Amen. David Ducamp pour l'interview politique de la matinale.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. 8h30, l'essentiel de l'info. On parlera évidemment des pics de pollution à Paris et à Lille. Attention, les véhicules les plus polluants sont interdits à la circulation. Et on vient de l'évoquer avec le ministre Gérald Darmanin. Faut-il réduire ou pas les indemnités chômage des hauts salaires ? L'idée du gouvernement, en tous les cas, fait débat. On vous dit tout dans quelques instants. Bon réveil.
Il est 8h27. À tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker pour la revue de presse. Et un mot-clé ce matin, le printemps.
Bonjour Nikos, bonjour Céline. Oui, c'est le printemps.
Ça dit
le printemps qui est en avance. Because des règlements climatiques, mais aussi le printemps algérien. C'est peut-être un peu tôt pour parler du printemps algérien. Les manifs font pas le printemps.
Et l'hirondelle fait quoi ?
Ben, théoriquement, elle fait le printemps, mais là, c'est Laurent Cabrol qui contrôle.
Il arrive dans quelques instants, Laurent
Justement,
Cabrol.
Ça m'intéresse, chers amis. Si vous avez vu vos hirondelles, envoyez-moi un petit, comment on appelle
ça ? Un tweet. Hashtag Europe 1.
C'est trop tôt, hein, faut pas qu'elles sortent trop tôt, les hirondelles.
Non, mais en principe, elles ne sont pas encore arrivées. Mais comme le printemps, soi-disant, vient d'arriver, que c'est magnifique, c'est un temps extraordinaire, Eh ben, elles devraient être là. Bon, déjà,
moi, j'en ai vu une. J'en ai vu une en Normandie ce week-end.
Ah. Attention. Une.
Moi, j'ai vu le loup. Enfin, j'ai vu le Canteloup. Il arrive. Nicolas Canteloup, la revue de Presque. À
et avant la revue de Presque, c'est la météo de Laurent Cabrol.
Bon, ben voilà, le printemps, on l'attend. On attend surtout aux hirondelles, mais en attendant, aujourd'hui, ce sera vraiment une journée printanière. Ensuite, ça va vraiment se gâter. Alors, les hirondelles, c'est vrai, font le printemps, on le dit. Et malheureusement, il y a de moins en moins d'hirondelles parce qu'elles trouvent pratiquement plus d'endroits où nicher et où se retrouver. Et donc, si vous envoyez, je plaisante pas, hein, si vous envoyez, c'est bien de nous signaler.
D'accord.
On avait fait une opération ici à Europe 1 il y a quelques années pour faire en quelque sorte le plan d'arrivée des hirondelles. D'accord. Selon les régions, on les voyait arriver à travers la France. Mm-hmm. Si je parle des hirondelles et du printemps, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Le ciel est clair, il fait beau et nous aurons des valeurs aujourd'hui de 14 à 20 au nord et de 23 à 27 au sud. C'est une très belle journée et on en profite.
Si vous avez vu un bourgeon sortir... Prenez-le en photo, le bourgeon. Et tweetez-le, s'il vous plaît, avec le hashtag Europe 1. Merci.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Il est 8h32, toute l'actualité de ce 27 février avec vous, Nico Saliagas.
Et attention, si vous devez prendre la voiture aujourd'hui du côté de Lille ou de Paris, les véhicules notés 4 ou 5 sur les vignettes critères sont interdits à la circulation en raison d'un pic de pollution aux particules fines. Écoutez les précisions du préfet du Nord, Michel Lalande.
C'est la première fois que les automobilistes vont devoir se servir de la vignette critère et ils pourront circuler les véhicules avec la vignette 0, 1, 2 et 3 et pourront circuler également tous les véhicules qui pratiquent le covoiturage sans distinction de vignette. C'est le niveau de pollution qui m'oblige dans ce contexte à devoir mettre en place la circulation différenciée. L'autre volet, c'est le volet limitation de vitesse sur l'ensemble du réseau routier avec des contrôles radars qui seront nombreux et sévères, je veux le dire ici, nombreux et sévères pour amener les uns et les autres à s'engager dans une démarche citoyenne, à savoir limiter son empreinte dans la pollution du Nord et du Pas-de-Calais.
Michel Lalande avec Lionel Gougelot pour Europe 1. Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été remis en liberté hier soir après une semaine de prison. On leur reprochait de ne pas avoir respecté leur contrôle judiciaire. Plus de 7 500 € d'allocation chômage tous les mois pendant 2 ans. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est ce que touchent en tous les cas les chômeurs qui avaient un très haut salaire avant de perdre leur emploi. Ils sont quelques centaines en France et le gouvernement songe à baisser cette somme. Écoutez le témoignage d'Alexandra, cadre dirigeante dans une société de services.
Moi, j'ai besoin d'être sécurisé sur tout un train de vie à côté que j'ai pas volé, que j'ai gagné au fruit de mon travail. Moi, aujourd'hui, en gagnant ce que je gagne, j'ai fait aussi des prêts immobiliers. Donc, bien sûr, on pourra toujours me dire « change de maison », mais moi aussi, je pense travailler et contribuer très fort à ma force de travail pour ne pas avoir à changer de maison. Si on amène beaucoup aussi à la société, alors pourquoi ne pourrait-on pas aussi, en retour, recevoir ce qui est au prorata ? Moi, j'ai fait une création de plus d'une centaine de CDI en 3 ans. Je pense pas voler mon argent si un jour, pour X raison, je suis au chômage et que je souhaite profiter de cette indemnisation-là parce que je souhaiterais remonter une entreprise ou un business quelque part.
Le témoignage d'Alexandra au micro d'Arthur Elmbaché pour Europe 1. Coup de théâtre chez Air France, KLM. Les Pays-Bas prennent plus de 12% du capital avec l'objectif d'arriver au même niveau que l'État français, soit 14%. Le gouvernement n'a pas été prévenu. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Dijon. 3-0, ça s'est passé au Parc des Princes.
Europe 1.
Vous écoutez Nico Saliagas sur Europe 1 et tout de suite, Nico, c'est l'heure de la revue de presse.
À la une ce matin, cher David Abiker, des printemps et des émeutes.
Et on commence avec ce printemps en hiver qui fait la une d'un quotidien régional sur deux. On commence avec la Dépêche du Midi, météo régionale du jamais vu. On poursuit avec Sud-Ouest, il n'y a vraiment plus de saison. Mais dans le courrier Picard, il y a ce jeu de mots. Le fond de l'air est frais. Effraie du verbe effrayer. Jeu de mots, Capello, pas question de bronzer et de profiter de ce temps sans penser à ses conséquences, la pollution et les allergies qui font la une de la Provence. Et Jean-Louis Hervoy dans la Charente Libre vous rappelle que si le soleil et l'envol des thermomètres nous transportent sur un nuage, il va falloir en descendre car tous les clignotants du dérèglement climatique s'allument en même temps et surtout les continents. Alors est-ce qu'on panique, Nikos ? Pas du tout, observe Emmanuel Delahaye. Tout se passe comme si la catastrophe annoncée était trop vaste pour qu'on puisse la prendre en compte. Mmh. Alors vous avez le choix aujourd'hui en lisant la presse. Soit vous profitez de ce printemps en avance, soit vous flippez. La peur n'excluant pas le danger, je vous conseille de profiter du soleil vu qu'il ne va pas durer.
Arrêtez de flipper. David, vous nous parlez aussi d'émeutes ce matin.
On ne va pas être dans une démocratie de l'émeute. Le Figaro met ce matin à la une ces mots du président de la République hier devant les élus de la région Grand Est au sujet des gilets jaunes qui seraient bien inspirés d'arrêter de manifester. Attention, avertit Michel Klekovicki dans Le Républicain Lorrain. Le président lui aussi serait bien inspiré de garder la tête froide et d'avoir le triomphe modeste face aux gilets jaunes dont le mouvement s'essouffle. Mais justement, le printemps et cette sortie sur les émeutes nous emmène ailleurs ce matin. En Algérie, dans La Voix du Nord, l'historien Nedjib Sidi Moussa compare le mouvement algérien à celui des gilets jaunes, mais lui donne une toute autre ampleur.
Quand t'as parlé de printemps, c'est peut-être un peu tôt d'après courrierinternational.com.
Abou Semar du journal Algérie Part y calme les ardeurs de ceux qui croient déjà en un printemps algérien. Voilà ce qu'il dit. Le régime algérien est plus sophistiqué que les autres régimes arabes qui sont tombés à la suite du printemps arabe. Pour le moment, Bouteflika et son entourage ont encore une grande marge de manœuvre pour réagir et traiter avec la rue. Ils peuvent sortir plusieurs réformes politiques qui vont déverrouiller le pays. Et Abou Semar poursuit. La famille Bouteflika peut abandonner le cinquième mandat, mais garder le pouvoir autrement, il ne faut pas négliger non plus le soutien international dont jouit le système Bouteflika. Ni l'Europe, ni les États-Unis, ni la Russie ne voudront que l'Algérie se transforme en Syrie bis. À 30 minutes des côtes européennes, une Algérie qui brûle peut menacer dangereusement toute la stabilité de l'Occident. Je ferme les guillemets. Pour tout comprendre de la crise démocratique algérienne, je tweete dans un instant cet entretien sur courrierinternational.com.
Après la France qui observe l'Algérie, les États-Unis regardent la France et l'affaire du hijab.
Il faut lire le Washington Post sur Internet ou Courrier International toujours. Les Américains s'interrogent sur la polémique qui a conduit hier soir Decathlon à renoncer à la vente en France du hijab destiné aux musulmanes qui font du sport. Un voile pour les musulmanes qui courent en France, c'est un scandale, titre le Washington Post. Perplexe les Américains qui en 2016 envoyaient leur première escrimeuse en hijab sur le podium olympique. Et le journal ironise. La France, c'est un pays laïque où il y a des crèches et des sapins dans les mairies et où les administrations ferment chaque jour férié catholique. Et dans la Voix du Nord, on compatira au sort de Yann. Yann, c'est le community manager de Decathlon. Il a dû modérer sur Internet l'émeute, encore une émeute, mais une émeute numérique provoquée hier par l'annonce de la vente du hijab chez Decathlon. Insultes, dérapages racistes, menaces, le métier dangereux de Yann exige d'encaisser le pire avec de la distance et du sang-froid, comme ce message reçu via le site Internet de la marque et que je vous lis en me bouchant le nez. Bande de pourris, vous trahissez les valeurs de la République, honte à vous, vous contribuez à l'invasion islamiste, vous finirez avec cette racaille dans les fours en Pologne. Je ferme les guillemets, j'ai envie de vomir. Le racisme et l'islamophobie donc, une dose d'antisémitisme en toute liberté. Ces ordures verbales se dissimulent, elles aussi derrière un voile, celui d'une défense indigne et frelatée de la laïcité. La modération sur Internet, c'est un sport de combat, Nikos, mais Decathlon ne vend pas encore l'équipement.
C'est déprimant. Regardez le ciel. Regardez comme il se fiche de nos névroses, de nos peurs et de nos racismes. Merci David Abiker. Merci beaucoup pour la revue de presse.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Ne bougez pas, il est presque là. La star du 7-9, l'inimitable Nicolas Canteloup et sa revue de presse.
Il est 8h39. À tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 8h41.
Bon, on se fait plaisir ou pas, là? Vous avez envie? Non, tranquillement. Regardez, elle rit même avant que Nicolas n'arrive. Julie, Anissa, ils sont dans la place tous. David Abiker, Oui, il y a aussi Laurent Cabrol. Nous sommes tous là et ça commence maintenant.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Corchon.
Qu'est-ce qui se passe?
Allez, non, mais c'est Anissage qui m'a fait rire. Allez, le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos.
Oui, on est tous là, on est au nombre de 1, 2, 3, 3.
3, exactement.
Salut à tous, l'info surround, c'est Alexandre Benalla qui est sorti de prison. Il a immédiatement, pardonnez-moi, remercié son avocate, Jacqueline Lafont, et son avocat, Maître Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a tout de suite récupéré bien sûr ses trois passeports, son passeport américain, son passeport nord-coréen et son passeport évidemment vietnamien pour pouvoir dîner juste pile à l'heure avec Donald Trump. C'était limite qui y arrive. Et Kim Jong-un, voilà, toujours en place notre Alexandre Benalla. À toi, Matt July.
Merci, Nico. Allez, on poursuit avec cette déclaration d'Éric Ciotti. Arrêtons avec la catophobie. Bonjour, Éric Ciotti.
Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Madame Anita.
Bonjour.
Monsieur Aliagas, Monsieur Abiker. Bonjour à votre chorale. Oui, je vous ai dit bonjour. Bonjour au pâtre grec. Vous êtes reconnu, monsieur Ayane.
Je m'avais démasqué, monsieur.
Des pâtres. Non, oui, non. Mais des pâtres grecs.
Bien.
Oui, oh, écoutez, on m'a dit que c'était une chronique d'humour. Je m'adapte. Donc, je le dis haut et fort, reprenant notre sujet. Arrêtons avec cette catophobie. J'en ai, madame Julie, assez des catophobes qui disent du mal de notre Sainte Mère l'Église.
Oui, mais enfin, le pape avait annoncé la fin de la pédophilie et pas grand-chose n'est sorti du sommet du Vatican.
Non, mais arrêtez aussi avec cela.
Quoi?
Alors, moi, écoutez, je vais vous dire franchement.
Oui.
Reposons les choses. Moi-même, j'étais victime d'attouchement de la part d'un prêtre.
Ah, bah bon?
Oui. Quand j'étais petit, et je n'en suis pas mort.
Mais vous aviez quel âge, alors?
C'était la semaine dernière.
Bah, vous avez dit...
Mais j'ai dit quand j'étais petit, j'ai pas dit quand j'étais enfant.
Oh là là.
Madame Anissa, alors. Laissez-moi... Bon, écoutez, je vous raconte en deux mots. C'était la semaine dernière,
oui.
Je vais au cinéma Gaumont de Nice, voir le film de François Ozon.
Bah, tiens, oui, au hasard.
J'enfile, comme à mon habitude, lorsque je suis à la caisse du cinéma, j'enfile ma casquette Nike à l'envers pour payer le tarif des moins de 12 ans. Je rentre dans la salle et là, en plein milieu de la projection, je sens une main se poser sur ma cuisse et un prêtre me dit « Petit, tu veux des bonbons ?»
Oh là, bah écoutez, je crois que ça ne nous intéresse pas votre histoire en fait, hein, non, allez.
Non, mais, oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est que pour un prêtre, un film d'Ozon, c'est un film érotique. C'est normal qu'il soit émoustillé. C'est la nature. Hein. Puis, faut dire aussi une chose, c'est que je l'ai remarqué lors de ma vie, beaucoup d'attirance. J'ai un fort sex appeal.
Bien sûr. Oui.
Ah, mais écoutez, j'ai moustillé. Regardez, mamie, ça. J'ai moustillé à qui mieux.
Oui, la meilleure.
Vous-même, Julie.
Et tout est moustillé.
Toutes les deux, je vous sens tout est moustillé.
Bon, mais écoutez, hein, on va réussir à gérer notre désir. Hein, vous inquiétez pas. Allez, on va vous laisser. Merci Éric Ciotti.
J'en prie.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a participé à l'émission Au tableau il y a quelques jours, mais il a refusé de répondre à une question d'un enfant posée en anglais. Christophe Castaner, bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, je sens bien à votre regard que vous allez vous payer ma tête. Alors rassurez-vous. J'ai déjà tout entendu à ce sujet. Bien entendu, les Macron, ils passent 7 heures avec les maires, s'en fichent, sont révisés et il a réponse à tout. Macron, il passe 14 heures au salon de l'agriculture et il bluffe les agriculteurs. Et Castaner, lui, il passe seulement 20 minutes avec des 8-10 ans et il sèche sur une pauvre question en anglais.
C'est ça que vous dites. Bah, ça la fout mal quand même de ne pas répondre à la question d'un enfant.
Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, madame Julie, car figurez-vous que tout a été bien, qui s'est terminé bien. Monsieur Ayaga, j'ai gagné ma confrontation avec cet enfant.
Ah, vous avez finalement répondu à sa question ?
Non, je lui ai tiré une balle de flashball dans l'œil.
Oh.
Hein, là, il a bien compris, il est rentré chez sa mère en chialant.
Oh là là, bon bah bravo. On vous laisse, monsieur Castaner. Brigitte Macron a déclaré à propos de Stéphane Bern, Stéphane est exigeant, il a raison de l'être, c'est un rebelle. Oh. Et puis après tout, je suis aussi un peu rebelle, alors on se comprend. Voilà ce qu'elle a dit de vous, Stéphane Bern.
Oh,
bonjour.
Oui, bonjour. Oh oui, je suis rebelle.
Oh ben oui.
Mais pas autant que Brigitte. Brigitte, oh cette Brigitte, mais quelle rebelle cette Brigitte Macron.
Ah bon, mais comment ça, dites-nous.
Alors écoutez, laissez-moi vous narrer une anecdote.
Oui.
L'autre jour, pour une rencontre avec la première dame de Bulgarie, Brigitte reçoit un petit ensemble de chez Vuitton, un petit ensemble veste, pantalon, couleur crème. Elle le passe, puis elle allume une bougie parfumée comme elle le fait à son habitude, une bougie diptyque, vous savez, senteur ambre du Népal.
Oui, très bien, parfait.
Et magnifique. La catastrophe, patatras, elle laisse tomber l'allumette pour qu'il avait allumé bien sûr la bougie sur son pantalon, hein, sur ce petit ensemble de chez Vuitton couleur crème, qui devient du coup crème brûlée.
Oh, ça c'est drôle ça, oui.
C'est bien, qu'à cela ne tienne. Vous savez ce qu'a fait Brigitte?
Bah non.
Vous savez ce qu'elle a dit?
Non.
Elle a dit flûte, tant pis. Je me rebelle, je dépareille. Elle a gardé sa veste Vuitton et elle a mis un pantalon, vous savez quoi? Un pantalon Hermès. Hermès avec sa veste Vuitton. Elle a tout dépareillé.
Et c'est ça une rebelle pour vous?
Ah ben je sais pas ce qu'il vous faut. Non mais qu'est-ce que vous... Mais oui, bien sûr, c'est une rebelle. Mais regardez pas comme ça, vous voulez croire qu'elle y aille en slip voir la première dame de Bulgarie à Londres?
Non mais enfin, c'est pas ça, être rebelle, Stéphane.
Elle a dit du mal de la première dame. Alors ça, je vais le dire à Brigitte.
Oh non, c'est pas la peine.
Si, je vais le dire à Brigitte.
Ne dites rien. Non, Stéphane, c'est bon. Non, ne dites rien. Voilà. Hein, le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture se tient en ce moment à Paris. On va en parler avec un petit producteur, Arnaud Montebourg.
Ah bonjour, Mme Julie.
Bonjour.
Salut, le gars Liaga.
Bonjour.
Le gars Biquet. Hein, le gars. Oui, tous les gars sont là. Le gars Biquet, oui. La dame Julie, la dame Anissa, Seigneur Météo.
Bonjour.
Le gars Doucan, comment que ça va?
Ça va, écoutez, très bien.
En pleine forme.
Je rappelle que vous êtes désormais producteur de miel avec votre compagnie Bleu Blanc Ruche.
Voilà, tout à fait, vous l'avez dit, Bleu Blanc Ruche, ma société. Vous le savez, mon rôle désormais est de relancer le miel Made in France et les jeux de mots.
Oula.
Bleu Blanc Ruche,
oui.
Hein, c'est un jeu de mots Made in France.
Oui, enfin, pas trop de jeux de mots quand même. Hein. Alors, comment vous allez relancer la consommation de miel?
Bien déjà, en choisissant une égérie, plutôt un représentant, un ambassadeur, un acteur américain comme représentant de notre marque.
Ah, mais qui ça?
Miel Gibson. Oh, génial. Et voilà, même le gars Liaga a compris. Miel et jeux de mots, Bleu Blanc Ruche. Et pan.
Oh là là, bravo, merci Arnaud.
Et mes ouvrières vont être contentes.
Félicitations. Allez, on reste
les
au salon.
Butineuses.
Oui, on reste au salon de l'agriculture qui va donc durer jusqu'à dimanche. On y retrouve Jean Lassalle en direct.
Oui, bonjour à votre troupeau. Bonjour, oh monsieur Liagas, le butineur en chef.
Alors, qu'avez-vous pensé?
Ça butine, matin et soir.
Alors. Jean Lassalle, qu'avez-vous pensé des 14h30 passées au salon par Emmanuel Macron? Et puis, combien de temps vous restez vous-même d'ailleurs?
Écoutez, à ce propos, je n'aurai qu'un mot à propos de M. Macron.
Oui.
Amateur! Moi, je ne reste pas 14h30 minutes. Moi, je reste 8 jours.
8
jours. Oui. J'ai pris la formule all inclusive. All inclusive, comme le chef-d'œuvre de M. Teniente, qui sera sûrement présenté au Festival de Cannes, c'est une certitude. C'est certainement un film européen.
Bah. Non, c'est pas un film européen. Non, pas cette daube, non.
Répondez, Monsieur Lassalle.
Alors là, vous êtes fâché avec votre métier, monsieur Lagasse. Oui, je disais, donc, je dors sur place, au salon, dans une étable, avec les cochons. Je devrais dire une porcherie, mais comme vos auditeurs ne sont pas au fait de chaque lieu qui héberge les animaux, je dis une étable pour voir simplicité. De toute façon, le salon de l'agriculture, pourquoi? La publicité passera à 9h10, le journal. De toute façon, le salon de l'agriculture, c'est le seul endroit à Paris. Ah oui, avec cette pollution, je parviens à respirer.
Ah oui, on a beaucoup parlé de pollution cette semaine, et puis ce matin surtout. Hein. C'est un sujet qui vous touche, la pollution?
La pollution, tout particulièrement, c'est un sujet qui me touche. Vous savez, avec mon petit nez en trompette... Oui, madame Anissa, qu'est-ce qu'il y a? Oui, encore de chasse, on va dire. J'inspire à chaque fois 6 mètres cubes d'air pollué par narine. Et ça, c'est catastrophique.
Et l'air expiré, alors, à quoi il ressemble?
Alors, l'air expiré, chez moi, est de bien meilleure qualité.
Ah bon?
Car il est totalement distillé. Cabrol comprendra. Il est composé, mon air expiré, de 80% d'alcool de prune sauvage, de 15% d'alcool de poire et de 5% d'oxygène.
Non, mais attention quand même, hein, on en parlait hier, 41 000 décès par an sont attribuables à l'alcool, faites gaffe quand même.
C'est vrai, vous avez raison de rappeler cette consigne, il faut le rappeler aux jeunes, l'alcool est à consommer avec...
modération.
Voilà.
Non, avec des copains. Avec des copains, à consommer avec des copains. Mais jamais, bien sûr, jamais plus d'un verre, pas plus d'un verre. Hier, au salon agriculteur, vous voyez, j'étais raisonnable, j'ai croisé un copain, Bernard Poirette. On a pris un verre, une poire. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, après, je suis parti, puis au hasard de ma pérégrination dans les allées, j'ai croisé un autre copain, David Doucan. On a pris un verre. Après, je suis parti, j'ai discuté, j'ai croisé un autre copain, Anis Mbida, on a pris un autre verre. Et après, je suis parti, j'ai croisé un copain, Didier François, on a parlé un peu de ses vacances en Syrie, on a pris un verre. Après, je suis parti, et voilà, et comme ça. Mais un verre par copain, jamais plus.
Jamais plus, non, non.
Cabron, toi, tu es un homme de la terre, tu es mon copain. Allez, viens, on va boire un verre. Allez, je vous le ramène.
Oh, bah, s'il vous plaît, on a besoin encore à 10h. Hein,
de bon matin, mais quelle forme, monsieur Lassalle. Hein. C'est vrai que vous êtes copain avec Jean Lassalle, Laurent Cabrol?
Beaucoup, oui.
Santé, avec modération. Merci Julie, c'était la revue de Presque avec Nicolas Canteloup. On se retrouve demain à 8h40. François Claus est avec nous. Il commencera son émission dans 7 minutes. Le tour de la question avec deux thèmes, un à 9h et un à 10h.
Et oui, à 9h, on va pas parler d'alcool, on va parler d'une autre addiction française. Vous l'évoquiez hier dans la matinale, une hausse de 40% des saisies de cannabis France. Qu'est-ce qui fait que la France est devenue le pays le plus consommateur d'Europe? Les réseaux, les marchés, la manière de... Que signifie aussi cette addiction collective finalement? Nous serons avec des spécialistes à partir de 9h. Et puis à 10h, un autre chiffre. Que vont faire ce soir 600 millions de terriens entre 21h et 23h? Ils vont regarder Barça Real.
Ah oui.
Ah oui.
L'explosion planétaire du football, ses conséquences. Est-ce que l'argent va un jour émousser notre passion sur le foot? On fera le tour de la question à partir de 10h.
Vous pouvez me les garder pour demain, pour The Voice. 600 millions, c'est pas mal. François Claus à partir de 9h sur Europe 1, évidemment.
À suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.
Merci, Anissa.
8h55 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Saliagas, mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Oui Laurent Cabrol, le dernier jour du beau temps aujourd'hui.
Voilà, dernier jour, et en cherchant dans les annales de la météo et dans l'histoire du climat, j'ai retrouvé la date de 1990 où il faisait 25 degrés à Bordeaux et 27 dans les Landes. C'est exactement la même température qu'aujourd'hui.
Le même temps.
25 à Bordeaux, 27 dans les Landes, voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas nécessairement une histoire de réchauffement climatique.
Bah,
c'est un peu excessif ce qu'on lit, ce qu'on entend.
Il y a du réchauffement dans l'air, mais enfin, c'est pas non plus dramatique. Okay. Il a fait 31,5, je vous le rappelle, à Saint-Giron en 1960. Bon, enfin bref, c'est tout. Non, il y a une sorte de panique. Il faut pas avoir peur de ce temps. Et ce temps, d'ailleurs, demain, on s'apercevra que il y aura plus de pollution.
On sort les pulls demain.
Va faire froid et il va pleuvoir. On va retrouver le temps d'hiver et puis c'est reparti pour une dizaine de jours. Donc voilà. Bref, aujourd'hui, profitons-en. C'est une très belle journée. Il faut en profiter très largement avec des valeurs de 16 à 20 degrés au nord et de 22 à 27 au sud. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Et on revient sur les moments forts de ce 7-9 avec vous, Nico Saliagas.
Faut-il réduire les indemnités chômage des plus hauts salaires? Le gouvernement, ils sont sérieusement l'occasion de faire des économies tout en adressant un message politique pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Écoutez, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, il expliquait la logique du gouvernement à ce sujet. C'était au micro de David Doucan, 8h15.
Le plafond, c'est 7 440 €. Il est trois fois plus important qu'en Allemagne. Il y a des abus, parce que pendant deux ans, on peut effectivement toucher 7 440 €, alors que les cadres, dans leur très très grande majorité, n'ont pas de problème pour retrouver un travail. Il n'est pas tout à fait normal, à l'heure où il y a 9% de chômage, alors que plein de gens cherchent plein de cadres pour travailler, on a encore ce système. Donc je trouve que c'est une mesure courageuse. Vous voyez, on demandait où est-ce qu'on fait des économies. Ouais. Tout le monde est d'accord pour baisser les impôts, il faut aussi se mettre d'accord pour faire des économies.
À 7h30, cet appel désespéré.
d'une grand-mère pour récupérer ses trois petits-enfants, trois orphelins de 1 à 5 ans retenus dans un camp de réfugiés en Syrie. Leur mère est morte, leur père est prisonnier des forces kurdes. Eh bien leur grand-mère, Lydie Manin Keda, interpelle le président de la République. Écoutez, c'était sur Europe 1.
Je lance un SOS au président de la République concernant mes trois petits-enfants qui ont perdu leur mère. Ils sont innocents, ils n'ont pas demandé à partir, ils n'ont pas demandé à naître dans un pays en guerre. Ces trois enfants sont abandonnés, confiés à des femmes qui ne sont pas leur mère, manque de nourriture, manque de médicaments, qui viennent vivre chez nous, qu'on puisse leur donner une éducation, qu'on puisse leur donner un avenir de citoyens français. Et je pense que la France a le devoir de les rapatrier pour qu'ils puissent se reconstruire.
Et à 7h45, je recevais celle qui, on l'espère, conduira l'équipe de France à la victoire lors de la Coupe du Monde de foot féminin. Ça commence dans 100 jours, pile. Ça se passera chez nous en France. Je parle de la capitaine des Bleus, Amandine Henry, qui était mon invitée. Objectif, gagner la Coupe, bien sûr, mais aussi mettre à l'honneur le foot féminin.
Quand j'ai commencé le foot, le professionnalisme n'existait pas pour les féminines. On sait que depuis quelques années, le foot féminin évolue bien en France. Et je pense que cette Coupe du Monde va être le déclencheur aussi de l'avenir. Et je pense qu'on est les ambassadrices aujourd'hui. On doit surfer sur la vague. On sait qu'on a le soutien du public qui sera derrière nous. En plus, on sera à domicile. Et voilà, on va se transcender et on va se mettre à 200% pour rendre fière la France.
Voilà la capitaine des Bleus. On va continuer à parler foot sur Europe 1 à partir de 9h avec François Clos, c'est le tour de la question. Merci de nous avoir suivis. Un grand bravo aux équipes techniques et éditoriales. Rendez-vous demain à la même heure, 6h50 pour le passage de relais avec Eva Roch. Prenez soin de vous. Merci Anissa, à demain.
À demain, Nico.
À demain, Julie.